Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 5 octobre 1994, diffusé le dimanche 15 juin 2014, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. On va faire un tour de l'actualité cette semaine avec deux invités qui sont, on ne peut pas dire des invités surprises. Vous avez entendu rire. Roger Olindre et puis je pense que Samuel Maréchal va venir nous rejoindre parce qu'avec lui on va parler quand même de cette invraisemblable affaire, enfin invraisemblable. De cette consternante affaire du questionnaire des jeunes.
Ah, les jeunes.
Voilà, on parlera des jeunes. On va parler également de nos relations avec l'Algérie, parce que ça, c'est un sujet qui me paraît intéressant. La première chose dont je voudrais parler, c'est évidemment, si on évoque l'actualité, c'est évidemment cette affaire qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit dans les médias, de la tuerie de cette nuit. Trois policiers, un chauffeur de taxi tué, six blessés. Enfin, cinq blessés, puisque le sixième, on s'en fout, c'est le gangster, donc qui crève.
Je crois qu'il est un peu
mais
mort.
Mais ce que je, tant pis, c'est peut-être un peu rapide, mais enfin bon. Ce que je voudrais dire, c'est que une fois de plus, cette affaire devrait nous amener à réfléchir à la façon dont fonctionne le système politico-médiatique. Il y a donc un gangster qui tue des policiers. Et immédiatement, on mobilise les médias pour expliquer pour interviewer les policiers représentants syndicaux de la police qui expliquent que la police n'est pas assez armée, qu'elle n'est pas assez protégée, que les communications sont insuffisantes, que les équipements radio sont insuffisants. Les chauffeurs de taxi défilent dans Paris pour expliquer qu'on attaque les chauffeurs de taxi. Enfin, tout ça est complètement dérisoire. De même qu'on découvre qu'à la suite du naufrage du ferryboat suédois, on s'est mis à passer des inspections des ferryboats français, dans les ports français. Tout ça est totalement dérisoire.
J'ai même entendu tout à l'heure qu'on faisait souder les portes.
On fait souder
les portes.
C'est-à-dire, oui. Effectivement. Non, le mieux, d'ailleurs, ça serait de rentrer les
véhicules avec voilà. Des grues, quoi.
Voilà. Mais même de supprimer les bateaux, parce qu'il faut reconnaître que les bateaux ont tendance à couler, oui. Les avions ont tendance à s'écraser, les voitures ont tendance à se cogner les unes les autres. Les escaliers ont tendance à faire tomber les gens. Donc il faut supprimer toutes les choses dangereuses.
Tout ça, quand même.
Non, ce que je veux dire, c'est que on s'occupe des choses, enfin on fait semblant de s'occuper. C'est un peu compliqué ce que je voudrais expliquer, mais je voudrais me servir de ces affaires pour montrer à quel point on est entré dans un univers de faux semblants médiatiques. Parce que ça fait des années et des années et des années et des années que les syndicats de policiers nous disent on n'est pas assez équipés, on n'a pas d'armes qui fonctionnent, on n'a pas de gilets pare-balles, on n'a pas de radio, on n'a pas de voiture assez rapide et tout. Et tout le monde s'en fout. Il faut dire aussi que ça fait des années et des années et des années que les syndicats de police nous disent le métier de policier est très dangereux. Oui, c'est vrai, le métier de policier est dangereux. Mais personne n'est obligé d'être policier. Il faut savoir que quelqu'un qui choisit d'être policier, il choisit un métier à risque. De même que quelqu'un qui choisit d'être dans l'armée, un jour ou l'autre, il peut être confronté à un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'il risque d'être amené à faire la guerre. Tout est possible. Hein. Donc, il faut une affaire comme celle qu'on vient de connaître cette nuit, pour déclencher ce qu'ils appellent une réflexion. Alors on a eu une cellule de crise cette nuit. On a eu le ministre qui s'est rendu sur les lieux. Tout ça est de la foutaise médiatique. D'abord, je voudrais qu'on m'explique comment le ministre peut se rendre sur les lieux d'un événement qui a commencé Porte de Pantin, qui s'est poursuivi à la Nation et qui a fini dans le bois de Vincennes. Qu'est-ce qu'il a fait, le ministre? Il a fait un tour opérateur? Il s'est baladé toute la nuit sur les lieux des différents attentats ou des différentes fusillades? Il est descendu de sa voiture? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert qu'un ministre se rende sur les lieux? Il n'a rien à foutre sur les lieux, le ministre. À quoi ça sert de réunir une cellule de crise la nuit parce qu'un timbré avec un fusil à pompe a tué 3 policiers? Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Rien. Ils le savent très bien. Donc il s'agit simplement d'un mensonge médiatique. On vous dit, vous voyez, le ministre s'en occupe, son équipe est là, tout le monde est présent, en pleine nuit, on est disponible, on s'occupe des choses et tout. C'est pas comme ça qu'on s'occupe des choses. J'entendais tout à l'heure Monsieur Balladur qui disait que la nation... Parce que là, il paraît que la nation existe encore. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on se dit nationaliste, on risque d'aller en prison, mais la nation existe toujours. Eh bien, la nation déclarait sa solidarité active avec les victimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Rien du tout, rien.
Quelle solidarité active? Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Balladur, pour les veuves des policiers qui ont été tués? Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Tout simplement, on va payer à ces pauvres femmes et à ces pauvres gosses qui sont orphelins les pensions et qui sont dues normalement par la loi, etc. Il y aura rien de plus. Cette solidarité active, c'est un mensonge médiatique. On a rendu hommage, Monsieur Balladur a rendu hommage aux chauffeurs de taxi. Mais voulez-vous me dire à quel titre on rend hommage? Qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Il était au volant de sa voiture, il y a un gangster qui est rentré et qui l'a tué. C'est un héros. Il n'est pas plus héros qu'un type qui se fait renverser par un taxi en traversant la rue. Il faut quand même avoir le sens de ce qu'on dit. On vit maintenant dans une société qui est uniquement orientée, qui est médiatiquement orientée. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, ne prend de sens que par la façon dont c'est médiatisé.
Par rapport aux élections,
que par rapport à la politicaille, aux politiciens, à ce que Monsieur Pasqua va pouvoir tirer comme bénéfice de cette histoire. Tout ça. C'est répugnant, cette affaire. Ces gens-là sont des gens répugnants. Qu'est-ce que Monsieur Pasqua est allé foutre cette nuit sur les lieux de cette tragédie? À quoi ça servait, sa présence? Qu'est-ce que c'est, encore une fois, que cette histoire de cellule de crise? Tout ça est de la foutaise absolue. On nous prend pour des imbéciles. Moi, je suis fatigué que des gens qui sont des escrocs, on le sait maintenant, on peut plus mettre un coup de pied dans l'Assemblée nationale sans faire tomber 3 types en prison, nous prennent en plus pour des imbéciles. Est-ce que ça va un jour se finir, cette histoire-là?
Dès que tu fouilles une poubelle, tu trouves un ministre.
Alors, il y a ou un ministre ou un député, mais c'est invraisemblable. Et en plus, ils sont là à nous donner des leçons de morale, à nous donner des leçons de morale politique, de morale civique. Ça devient insupportable. Et puis, je répète, que je peux pas supporter la façon dont ces gens-là me prennent pour un imbécile. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui... n'a rien à voir en importance avec les centaines de tragédies qui se passent toutes les nuits et tous les jours en France, partout en France. Les petites vieilles qui sont agressées, les petits vieux qui crèvent de faim, les gens qui sont sans travail, toute cette misère, toute cette insécurité, toute cette violence qui est perpétuelle. Et là, on fait pas de cellule de crise. Hein. Monsieur Pasqua ne se rend pas sur les lieux quand quelqu'un est agressé dans le métro, quand un type est poussé sous le métro par un dément, quand un dealer vend de la drogue. Monsieur Pasqua ne se rend pas sur les lieux. Donc tout ça, c'est un formidable guignol médiatique. Et je voudrais vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le Libre Journal. C'est pour arriver à dire aux gens de chez nous, parce que les autres je m'en fous réellement alors, mais aux gens de chez nous au moins, ne coupez pas dans ce truc-là. Quand j'entends des gens de chez nous qui me disent, mais finalement Pasqua il est pas si mal, j'ai envie de hurler. Parce que les autres soient des imbéciles, bon ça je le sais, les gens de gauche qui soient des crétins, tout le monde le sait, que les gens qui votent RPR ou PR... et un petit problème de comprenette, c'est évident, parce que depuis le temps que ces gens-là sont au pouvoir, qu'il y a encore des citoyens pour leur faire confiance, pour croire qu'ils sont capables de faire quelque chose pour ce pays, c'est vraiment à désespérer de tout le monde. Donc c'est pas à eux que je m'adresse, mais je m'adresse aux gens de ma famille, aux gens que j'aime, aux gens qui sont proches de moi. Et, Et quand j'entends ces gens-là me dire, mais finalement, M. Balladur est bien élevé, M. Pasqua, il est pas si mal que ça, c'est à devenir malade, c'est à devenir malade de rage. Parce que ces gens-là sont, ils vous trompent, ils vous mentent, ils vous prennent pour des imbéciles, ils sont prêts à tout, à saisir n'importe quelle occasion, ils disent n'importe quoi. Regardez, je vais citer un exemple. Monsieur Pasqua, l'autre jour, inaugure la mosquée de Lyon. Bon, il a fait un discours qui est un tissu de singerie, d'imbécilité, mais dans lequel il y a, comme dans un écrin, une perle de sottise qui mériterait des pages d'écriture. Il a dit qu'il souhaitait un concordat avec l'islam. Il l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. Il a dit deux choses. Premièrement, il a dit qu'il faudrait transformer l'islam en France en islam de France. Ce qui est quelque chose de terrifiant et de monstrueux. Parce que je vous rappelle quand même que Monseigneur de Courtrai, primat des Gaules, ce qui a un sens symbolique très fort, avait interdit que dans ses discours, que dans les textes qu'on lui préparait, on utilise le mot « église de France ». Et lui ne parlait que d'église en France. Et il disait que c'était pour bien signifier que l'église catholique n'était en France qu'une des manifestations de la religiosité, de la spiritualité. Il y avait l'église en France, il y avait l'islam en France, il y avait la synagogue en France, il y avait tout ce qu'on veut en France. Donc il n'y avait plus d'église de France, il y avait une église en France. Et 15 jours après la mort de Courtrai, Pasqua dit « Il faut plus d'islam en France, il faut un islam de France ». Autrement dit, c'est un peu une façon de dire, la religion officielle dans ce pays, ça va devenir l'islam. Première chose. Deuxième chose, quand il parle de faire un concordat avec l'islam, pour qui il nous prend, enfin une fois de plus, il a raison d'ailleurs, parce que la plupart des gens ne savent même pas la valeur des mots. Qu'est-ce que c'est qu'un concordat ? Un concordat, c'est un traité de paix passé entre deux puissances. La puissance religieuse, c'est-à-dire l'État du Vatican, et la puissance temporel, c'est-à-dire l'État co-signataire du concordat. Le premier concordat, il a été signé à Worms en, je crois, 1142, à la suite de la querelle des investitures. Et depuis, il a été signé entre les empereurs d'Allemagne et le Vatican. Et depuis, il y a eu plein de concordats qui ont été signés avec la Roumanie, avec l'Italie, avec la France, avec l'Allemagne, avec enfin plein de pays catholiques. Ils ont d'ailleurs tous été dénoncés. Le seul qui reste en vigueur, c'est le concordat italien qui a été modifié il y a quelques années. Et puis, le concordat de 1801 qui avait été signé par Bonaparte et Pie VII, qui reste en vigueur pour l'Alsace et la Lorraine. Mais ça veut dire qu'un concordat, pour le signer, il faut deux puissances. Il faut, en France, il faut l'État français, et en face, une puissance politique, temporelle et spirituelle, qui est en l'occurrence le Vatican. Mais quand Pasqua dit qu'il veut signer un concordat avec l'islam, avec qui il va signer? Qu'est-ce que c'est l'islam? Qui est le chef de l'islam? L'islam, il y a autant d'islam qu'il y a d'imams. Il y a pratiquement autant d'imams potentiels qu'il y a de musulmans. Donc avec qui on va signer? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il le sait très bien qu'il nous raconte des cracks. Il n'est pas idiot, Pasqua. C'est un représentant en apéritif à Nizé, mais il n'est pas complètement idiot. D'abord, c'est pas parce qu'on est un représentant en apéritif qu'on est un imbécile. Mais donc il sait très bien qu'il nous raconte n'importe quoi. Mais il nous prend pour des imbéciles. Il croit qu'on va marcher. Je t'en prie.
Mais il y a une chose aussi qui vient corroborer tout ça. C'est que, par exemple, je regardais l'autre jour. Et j'ai commencé à faire chez moi la collection. Mais comme j'en ai marre de leur donner de l'argent, j'arrête cette collection. Des journaux. Le Nouvel Observateur, l'Express, Le Point. Enfin, tous ces journaux qui nous attaquent constamment ne font leur couverture que sur le danger islamique, des filles voilées et tout. C'est-à-dire qu'ils disent pire que ce que nous disons, mais quand nous le disons, non pas pour faire monter les ventes de nos journaux, mais pour avertir ce qui va se passer dans ce pays et ce qui se passe dans ce pays, ces mêmes journaux nous insultent alors que nous disons moins que ne publient dans leur canard, parce que la dérive de Monsieur Pasqua aujourd'hui ne fait que suivre celle de Monsieur Jox. Il ne faut pas oublier, je le rappellerai le mercredi 26 octobre à la mutualité, que celui qui était là avant, hein, Monsieur Jox, à une réunion générale de tous les commissaires de police de France, avait dit « Il n'est pas question et vous n'avez aucun ordre pour tenter d'enrayer la montée de l'islam en France. » Donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Tous ces gens découvrent ça aujourd'hui, au même titre que dans un mois ou deux, s'il fait très froid, ils vont découvrir les SDF, qui seront d'ailleurs, comme les autres années, tous des Français d'origine, et pour qui on ne prépare rien, on ne fait rien en ce moment. Il est certain qu'on ne peut pas préparer des logements pour cet hiver pour les gens, les Français malheureux, dénommés maintenant SDF, alors que l'on cherche des centaines de milliers de places pour mettre les réfugiés soi-disant politiques algériens que M. Pasqua et ses amis sont prêts à recevoir sur le territoire. Alors là aussi, on nous regarde avec des gros yeux. Mais comme je le dirai à la tribune de la mutualité, c'est cela, ça sera une grande soirée patriotique, une grande soirée de vérité. Si ce n'est pas vrai ce que nous disons, qu'ils nous arrêtent à la sortie, ils n'ont qu'à nous enlever nos droits de citoyens, ils n'ont qu'à nous mettre en prison. S'ils ne le font pas, s'ils ne nous arrêtent pas à la sortie quand nous disons des choses aussi simples, c'est que c'est vrai. Alors qu'ils cessent de mentir.
Si vous voulez un autre exemple de l'imposture, ce matin j'ai appris, enfin comme vous tous d'ailleurs, on a tous appris par les journaux, qu'on avait envoyé des gendarmes, ou des CRS, ou je ne sais quelle force de police, ou de force de l'ordre, pour disperser des jeunes musulmanes, une vingtaine de jeunes musulmanes en tchador ou en foulard islamique, qui s'étaient rassemblés à la porte d'un lycée. Je crois que c'est à Lille, ou dans la banlieue de Lille.
Non, c'est à Lille, c'est le lycée Federbe.
Oui, à Lille, voilà. L'avant-veille, à la cité des Sapins, à Rouen, il y a eu des émeutes. Tout le monde sait que ces émeutes sont le fait de la population beurre. C'est pas compliqué. La cité des Sapins, c'est 97% de beurre. Donc, on sait très bien que c'est pas du Normand qui fait ces affaires-là. Bon. Eh bien, la police a foutu le camp devant les émeutiers. Et il y a quelques mois, le directeur des départementales des polices urbaines de Rouen a passé une partie de la nuit à négocier avec le représentant des émeutiers de la cité des Sapins, qui était d'un jeune beurre de 13 ans, vous m'entendez ? Un beurre de 13 ans. Qui a discuté, négocié une partie de la nuit avec le directeur central et départemental des polices urbaines de Rouen, le prix de la négociation étant « on arrête de brûler les voitures si vous retirez vos de la cité, on ne veut plus de flics dans la cité ».
Et le commissariat qui a été sorti voilà. De la cité aussi.
Alors, ça veut dire que, dans le même temps où la police chargée du maintien de l'ordre capitule devant des émeutiers dans la banlieue de Rouen, la police chargée du maintien de l'ordre va rouler les mécaniques sur ordre, les pauvres gars à qui on fait faire ça, ils sont certainement pas enchantés de le faire, devant 6 ou 7 gamines, parce qu'elles portent un foulard sur la tête, devant un lycée lillois. Est-ce que vraiment vous croyez qu'on vit dans un pays qui est dirigé par des gens sérieux ? Moi je répète ce que je dis maintenant systématiquement. Ces gens-là sont des crapules, et ce sont des gens que je dénonce parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Et moi, j'ai pas du tout envie qu'on me prenne pour un imbécile. Je suis fatigué d'être considéré comme un imbécile par des gens qui sont des canailles.
Mais ça n'est pas drôle, mais c'est d'un côté drôle parce que on ne s'est pas vu de cette semaine, hein, et la mutualité que je prépare pour le 26, c'est justement pour dénoncer tout cela. On ne va rien dénoncer d'autre, on va dénoncer tout cela et dire que maintenant, ça suffit. Et comme on rentre en résistance, eh bien, il s'agit que ces préfets, ces sous-préfets, ces hommes qui déclarent n'importe quoi sur les antennes et autres, chaque fois qu'un type déclare quelque chose d'anti-français ou cautionne quelque chose d'anti-français, nous demandons maintenant que l'on prenne l'heure, la date et le nom. Et ces types-là, on ne leur fera pas de mal quand on aura le manche, mais on les foutra à la porte des endroits où ils sont payés avec l'argent des contribuables. Si tous ces étrangers, je me refuse à employer le mot qui est donné aux jeunes de la deuxième et troisième génération, hein, font ce cirque dans les banlieues, c'est parce que jamais ils n'ont pensé qu'ils pouvaient être triqués. S'ils avaient été triqués une fois pour toutes et que la loi soit appliquée à tout le monde, eh bien, ça serait rentré dans l'ordre déjà depuis longtemps.
Alors, quelques, il y a beaucoup d'appels d'auditeurs, mais j'en ai trois là, dont je voudrais parler. Il y a un auditeur, effectivement, qui nous envoie un fax qui est d'un humour un peu grinçant, mais qui me paraît exactement résumer l'attitude du pouvoir en général. Cet auditeur nous dit « Il est urgent de voter une loi interdisant de circuler avec un fusil à pompe dans un taxi volé le mardi soir entre Nation et Vincennes. » Et c'est exactement le comportement de ce gouvernement.
Sans ça, le ministre de l'Intérieur se dérangera personnellement.
Personnellement, et il ne tolérera pas, puisque chacun sait que c'est intolérable. Une auditrice reprend la phrase que j'ai dite tout à fait au début de l'émission en disant qu'il crève. Elle me dit « On est responsables les uns des autres, il ne faut pas dire qu'ils crèvent. Les gens deviennent désespérés, ils se droguent, ils n'ont plus d'espoir. Les jeunes sont malheureusement influencés par le cinéma et la télé où il y a 30 crimes montrés. » Mais, madame, je voudrais répondre à ça, parce que ça c'est un argument qu'on nous sert effectivement, je dirais même, si vous me pardonnez l'expression, qu'on nous tartine à longueur de journée. Or, moi je suis désolé, j'ai deux fils qui regardent la télévision aussi, qui vont au cinéma. Moi je regarde la télévision et je vais au cinéma, je lis les journaux, et je ne me drogue pas et je suis pas désespéré. Et mes fils ne se droguent pas, ils sont pas désespérés, et pourtant on est exactement dans la même situation que des millions de Français. On aurait toutes les raisons d'être comme ça. Simplement ce qu'il y a, c'est que on a d'abord un idéal. On n'est pas complètement déconnecté de la réalité et de l'espérance. Et puis on essaye de résister à cette ambiance, à cette imprégnation de cochonnerie, de cochonceté morale et intellectuelle. On a un esprit, Roger en parlera tout à l'heure, il en parlait il y a deux minutes, on a un esprit de résistance. Ce qu'il faut redonner aux Français, c'est un esprit de résistance. Il faut leur dire, d'abord, sachez que systématiquement, ce qu'on vous dit à la radio, ce qu'on vous montre à la télévision, ce qu'on écrit dans les journaux, c'est un mensonge. On l'écrit, on le dit, on le montre pour vous tromper. Donc ayez premièrement un esprit de discernement. Faites attention à ce que vous dites. Essayez d'analyser ce qu'on vous explique. Regardez ce qu'on vous montre, mais en vous disant que il s'agit probablement d'une manipulation. Première chose. Deuxième chose, vous n'êtes pas tout seul pour faire ça. Vous avez des outils de discernement. Vous avez des radios qui sont, enfin au moins une radio qui est représentative de cet esprit, c'est Radio Courtoisie. Vous avez des journaux, vous avez un quotidien qui s'appelle Présent, qui tous les jours mène le combat de la contre-désinformation. Vous avez des hebdomadaires, vous avez le Libre Journal, vous avez tout un arsenal.
National Hebdo.
Il y a National Hebdo, il y a tout un arsenal de moyens qui vous permettent de résister au bourrage de crâne et au matraquage. Et puis vous avez des lectures, et puis vous pouvez aller à la messe. C'est pas absolument interdit d'aller à la messe le dimanche. Ça aide aussi. Et puis vous pouvez fréquenter des gens qui pensent comme vous. Vous pouvez bavarder, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez adhérer à des clubs, à des cercles, vous pouvez même militer. Tout ça, ça vous aide à résister. Évidemment, on vit dans une société qui est une société épouvantable, qui est une société menteuse, tricheuse, broyeuse, injuste, violente, sale. Mais on n'est pas obligé de se laisser aller, de se laisser glisser là-dedans. On peut résister.
Je pense que tu as entièrement raison, parce que beaucoup de gens qui sont nos amis, parce qu'ils n'ont pas besoin de partager à 100% nos idées pour être des amis, ce n'est pas ça, un rassemblement pour sauver la patrie. On peut avoir des divergences sur certains points, mais c'est vrai que les gens ne lisent pas assez. Hein, parce que l'autre jour, j'ai une brave dame qui m'a téléphoné. Bon, c'est facile de me téléphoner, puisque il n'y a que mes amis qui ont mon numéro personnel, mais tous les gens qui me demandent au CNC, où je suis presque tous les après-midi, je réponds. Bien, cette brave dame avec qui j'ai passé 10 minutes, parce que j'étais atterré et je ne voulais pas la lâcher, me disait, mais monsieur Hollande, je vous ai entendu sur Radio Courtoisie, mais enfin, je suis quand même étonné de ce que vous dites, hein, parce que vous êtes en contradiction totale avec monsieur Vergès. Non, mais si ma chaise n'avait pas été bien calée, je tombais à la renverse. Enfin, je sais bien que monsieur Tapie et monsieur Le Pen, soi-disant, c'est la même chose. Bon, il y en a un qui est pour la fermeture des frontières, l'autre pour l'ouverture. Il y en a un, Le Pen, qui est pour qu'on renvoie les immigrés chez eux, qu'on renverse le flux migratoire, et l'autre, il est pour qu'on en amène encore. Le Pen est pour le travail pour les Français, le Tapie... Bon, alors on dit, ils sont les mêmes idées, sont des populistes. Bon, si maintenant, ce que nous disons, toi, moi, des amis, c'est en contradiction avec monsieur Vergès, mais forcément que c'est en contradiction avec monsieur Vergès. Monsieur Vergès est gauchiste, hein, et nous sommes nationalistes français. On n'est pas internationalistes, nous sommes nationalistes français. Mais je regrette qu'il y a tout un tas de livres qui expliquent tout ça. Bon, il y a des gars comme Figueras, il y a des gars comme Plancard-Assac, il y a des gars comme toi, comme Sanders. Bon, moi, j'ai écrit, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, un bouquin qui s'appelle à tous ceux qui n'ont rien compris. J'avais écrit avant aux larmes citoyens. Il y a dedans des explications sur toute la situation actuelle. Hein, le rire du Cosaque que j'avais écrit avant est vraiment un puits où dans lequel on peut plonger et sortir à plein seau des idées montrant comment nous avons été trahis pendant des décennies et comment ça continue. C'est exactement la même chose. Ce livre-là que les éditions Libre Opinion viennent de ressortir, Honneur ou Décadence, avait été mis au pilon sous le général de Gaulle. Hein, saisi, mis au pilon, obligation de fondre les plombs, hein, et il avait disparu. Bon, ben, les éditions Libre Opinion, et ce livre sera en vente mercredi à la Mutualité, ce livre Honneur ou Décadence traite tout un tas de choses. Je l'ai écrit il y a 20 ans. Bon, il est encore valable aujourd'hui. Alors, au même titre que Le Pen a entièrement raison, les gens qui sont à ses côtés depuis 20, 30 ans, nous avons raison. Nous avons eu raison absolument sur tout. Seulement, et il faut pas que ce soit nous qui le disions. Hein, ce que nous répétons depuis 20, 25 ans, c'est pas à nous de le répéter quand les choses arrivent. On dit, vous voyez, nous avions raison. Alors non, nous ne pouvons pas avoir raison parce que nous sommes des maudits. Voilà. Non, eh bien, ça suffit. Nous ne sommes plus des maudits, nous rentrons en résistance.
Alors, d'autres appels. Une auditrice nous fait remarquer que dans un journal de télévision, on peut lire, je veux dire ce que c'est d'ailleurs, dans Télé 7 jours, à la page 138, dit-elle, on peut lire que le cardinal de Courtrai avait déclaré que les premiers archevêques de Lyon étaient des immigrés. Mais je veux dire, s'il fallait recenser tout ce que le cardinal de Courtrai a dit... Comme chose, eh bien, il faudrait plus de 138 pages. C'est à peu près certain. Une auditrice, tiens, voilà exactement...
Et puis, en toute façon, ça veut dire quoi, des immigrés? Bon, oui. Bon, il y avait des immigrés, Saint-Augustin était berbère. Et c'est un des plus grands théologiens de notre religion, hein. Si c'est des gars comme ça dont elle veut parler, moi j'en prends 15 camions demain matin, hein.
Une auditrice, j'habite une ville assez chaude. 6 ou 7 jeunes gens ont déclaré que si on autorisait les voiles islamiques à l'école, eux ils rentreraient avec leur chapelet autour du cou. Alors, voilà, ça me paraît ce genre de déclaration absolument représentatif d'une mauvaise compréhension du sujet. La question n'est pas de savoir si on va autoriser les voiles islamiques et si par représailles en quelque sorte on va se mettre avec des chapelets, à se promener avec des chapelets. La question, ce qu'il faut savoir, c'est que la civilisation française, elle est d'essence catholique. C'est-à-dire que un Français, que ça lui plaise ou non, quelle que soit sa religion, je dis bien quelle que soit sa religion, que ce soit un Français juif, que ce soit un Français musulman, que ce soit un Français bouddhiste, toute sa culture est totalement imprégnée de catholicisme. Obligatoirement, toutes ses références. Et par conséquent, un catholique français, il n'a pas à manifester par représailles sa catholicité. Et moi, je me balade non pas avec un chapelet autour du cou, parce que je signale que le chapelet, c'est pas fait pour être autour du cou. C'est fait généralement pour être à la ceinture ou dans la poche, et pour s'en servir en plus. Mais j'ai autour du cou une chaîne et des médailles. Et j'ai pas attendu que les musulmanes se baladent en tchador pour me mettre une chaîne et des médailles autour du cou. En France, c'est notre droit strict, complet, de Français, de manifester la nature catholique de notre civilisation. Et il se trouve qu'on peut tolérer, je dis bien tolérer, nous, Français catholiques, que des Français non catholiques manifestent leur appartenance à une autre religion. Mais cette religion n'est pas consubstantielle au pays. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas du tout du racisme de le dire, car le racisme n'a rien à voir avec la religion. J'ai parmi mes meilleurs amis, mes très très bons amis, les gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, de tendresse et de respect, un évêque, je peux même dire un évêque conciliaire, c'est horrible mais c'est comme ça, qui est un nègre, un authentique nègre, tout ce qu'il y a de plus nègre. Bon, et ça n'a rien à voir, le racisme et la religion sont deux choses différentes.
Chaque national des combattants, le curé qui nous fait les plus grands sermons patriotiques en dehors de notre aumônier, l'abbé Guépin, en dehors de lui, c'est un noir qui est chez nous, chez lui, qui est au cercle national des combattants et qui fait des sermons d'un patriotisme très, 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 très élevé. Hein. Et puis la France est quand même la fille aînée de l'Église. Et puis nous sommes sur une terre de mission, sur une terre catholique. Ce n'est pas les autres qui ont à venir nous faire changer de religion. Là, dans le papier que j'ai écrit et qui paraît dans NH de demain, bon, on m'avait demandé de parler de la Kabylie. Je parle de la Kabylie et je trouve dans tous les journaux métropolitains que les Kabyles se révoltent avec juste raison parce que ils veulent défendre leur terre, ils veulent défendre leurs coutumes, ils veulent défendre leur langue, ils veulent défendre leur tradition, mais je dis, mais nous, on ne veut pas autre chose.
Oui, c'est tout.
Nous voulons défendre notre terre, nos traditions, notre religion, nos coutumes, on ne demande rien. Alors, si c'est bien pour les Kabyles, et moi je trouve que c'est très bien pour les Kabyles, pourquoi ça n'est pas bien pour les Français ?
Un auditeur nous dit, l'islam est la première religion de France, les mosquées sont pleines, les églises sont vides, même le dimanche. Il y a aussi mensonge sur le nombre des musulmans présents en France, au moins 6 millions, dit-il. Je crois que c'est 8 millions en réalité. Quant à dire que l'islam est la première religion de France, c'est de toute façon, en fonction de ce que je disais à l'instant, c'est pas le problème. L'islam est une religion très fortement représentée en France. Il y a peut-être plus de musulmans le vendredi dans les mosquées qu'il n'y a de catholiques le dimanche dans les églises, on n'en sait rien, c'est possible, mais de toute façon ça change rien au fait que la France est un pays catholique et que la France ne sera jamais, 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 quoi qu'on fasse, une terre d'islam. C'est une impossibilité ontologique, c'est une impossibilité fondamentale, c'est pas possible. Tout notre pays est pétri littéralement de catholicité. Vous pouvez pas faire 2 kilomètres à la campagne sans voir un calvaire, sans voir un clocher, sans voir un cimetière hérissé de croix, et par conséquent on est en terre catholique. Et il faut bien que les musulmans sachent qu'ils sont en France les hôtes d'un pays catholique. Et je trouve qu'on est extrêmement gentil, extrêmement tolérant, extrêmement arrangeant d'accepter que en France s'élève dans la cité sacrée des Gaules, qui est Lyon, ce qu'on a osé appeler une mosquée cathédrale, ce qui est un blasphème épouvantable, enfin, une grande mosquée construite avec le fric de l'Arabie Saoudite, pays dans lequel vous n'avez même pas le droit d'avoir une croix autour du cou. Alors il s'agit même pas là-bas de construire une chapelle.
Et où les femmes européennes doivent se balader avec des robes longues et qu'on ne voit même pas le bout des et avec les voilà. manches longues
et
un
ont...
voile voilà. un voile et... sur la tête.
Alors je veux dire que je ne sais pas si on mesure le scandale qu'il y a à prétendre que la France est un pays raciste, par exemple, ce qui se fait à longueur de journée, quand dans ce pays on tolère la construction d'une mosquée par un pays dans lequel on n'a même pas le droit d'avoir une croix autour du cou. Est-ce que vous vous rendez compte de l'invraisemblable paradoxe, de l'invraisemblable et scandaleux paradoxe que constitue cette affaire ?
Et le comité de gestion de cette mosquée comporte beaucoup, beaucoup de consuls étrangers.
Alors, voilà
beaucoup
encore...
Beaucoup de consuls étrangers. Alors, on dit, oh, mais là, ça y est, recommence le racisme et tout. Mais enfin, nous sommes en France. Le jour où on pourra construire des cathédrales ou même des petites chapelles dans leur pays, eh bien, ça se saurait. Mais on sait que c'est exactement le contraire. Les ambassades de France en Arabie Saoudite ou les ambassades européennes en Arabie Saoudite, hein, pour faire la messe de minuit et autres, font rentrer des curés clandestinement. Clandestinement, et ça se passe dans les caves.
Alors, à ce propos, à propos de la direction de la mosquée de Lyon, il faut quand même rappeler quelque chose. Quand cette mosquée a été mise en projet, on nous a expliqué, mais vous comprenez, il y a 4 millions de musulmans français, 4 millions de musulmans qui ont la nationalité française, il est normal que ces 4 millions de français de confession musulmane aient des lieux de prière. Bon, alors entendu, on a construit donc la mosquée de Lyon. Moyennant quoi, le recteur, le moufti, comme on dit, de la mosquée de Lyon est un Algérien. Et le conseil d'administration de la mosquée de Lyon est constitué aux trois quarts de musulmans étrangers et placé sous la tutelle du gouvernement d'Alger. Alors, moi, je voudrais poser une question à M. Pasqua, si il pouvait me répondre, ça me ferait plaisir. Comment ça se fait qu'il n'a pas été foutu de trouver, sur les 4 millions de musulmans français, un seul imam capable de diriger la mosquée française de Lyon et une douzaine de gens, une douzaine de citoyens musulmans français de confession musulmane, capable de gérer cette mosquée. Comment il n'y est pas arrivé ?
Mais ces gens existaient parce que la première personne qui a initié l'idée d'une mosquée, non pas comme ils disent une mosquée cathédrale, mais une mosquée normale à Lyon, c'est un officier français d'origine algérienne et qui est français, hein, qui a combattu le FLN et autres. Donc il avait autour de lui des gens. Et il est dans le comité directeur aujourd'hui, mais qu'un seul des membres du comité directeur. Mais il ne faut pas oublier, pour que les choses soient claires, que la mosquée de Paris a été donnée au gouvernement d'Alger par Monsieur Giscard d'Estaing. Donc tout ça, ça n'est pas d'hier.
Et puis, un auditeur nous dit, Monsieur Pasqua se fiche du monde quand il nous dit que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur auront autorité pour imposer un islam tolérant et démocratique. Oui. Alors, à ce propos, je voudrais quand même signaler que, effectivement, quand Monsieur Pasqua a fait son discours, il a expliqué que il faudrait que le concordat, l'islam concordataire dont il parle, n'était naturellement concevable que sous la forme d'un islam tolérant et refusant toute exclusion. Eh bien, symboliquement, quand il a dit ça, vous savez où il était ? Il était sous la mezzanine de la mosquée de Lyon. Et la mezzanine de la mosquée de Lyon, elle fait 300 mètres carrés, quand la mosquée de Lyon fait au total 8000 mètres carrés. Autrement dit, la mezzanine de la mosquée de Lyon représente à peu près en surface le 20e, enfin disons le 15e de la totalité de la mosquée. Eh bien, cette mezzanine, c'est le seul endroit où les femmes musulmanes ont le droit d'aller. Autrement dit, Monsieur Pasqua, en présence de la démonstration évidente, aveuglante, architecturale, que l'islam est une religion essentiellement misogyne, en tout cas qui méprise la femme, tient un discours dans lequel il déclare que l'islam peut être tolérant et ouvert et qu'il peut ne pas pratiquer l'exclusion. Mais c'est tout simplement faux. Moi, je dirais que c'est le problème des musulmans et des musulmanes. S'ils ont envie de vivre une religion qui considère que la femme est un être inférieur, c'est leur problème. Moi, ça ne me regarde pas, je porte pas de jugement là-dessus, je m'en fous, ça me regarde pas. Ça m'intéresse d'ailleurs pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, est un menteur. Parce qu'il le sait très bien, ce que je viens de dire. Il sait très bien que dans l'islam, la femme a un statut d'animal de bas. Et il prétend que l'islam, en France, est tolérable dans la mesure où il est en accord avec les lois de la République. Mais c'est une impossibilité fondamentale. C'est comme si on disait, on supporte en France les anthropophages à condition qu'ils respectent les lois de la République. Les anthropophages ne peuvent pas respecter les lois de la République puisque les lois de la République interdisent de manger de la chair humaine. Les musulmans ne peuvent pas respecter les lois de la République puisque les lois de la République interdisent la polygamie et interdisent le sexisme, c'est-à-dire la discrimination fondée sur le sexe. Or, l'islam impose cette discrimination. Donc, il y a une impossibilité fondamentale que M. Pasqua le veuille ou non, c'est comme ça. Et quand il dit le contraire, c'est un menteur.
Eh bien, le jour où on étudiera réellement ce qui a été bradé par tous ces hommes politiques, et en premier lieu par M. Pasqua, pour des simples questions électorales, même d'élections municipales, on brade une partie de la France, une partie de nos pouvoirs, même pour des petites élections municipales. M. Pasqua se répand dans tous les déjeuners avec les journalistes, et il en a beaucoup en ce moment, sur le fait, par exemple, que le problème algérien, ça va craquer là-bas. Si ça ne craque pas tout de suite, c'est parce qu'on leur envoie du fric par pleine valise, hein, et qu'ils peuvent payer leurs flics, les dénonçateurs, les gens qui torturent, parce qu'on n'a jamais autant torturé aujourd'hui en Algérie, dans un journal que je ne citerai pas parce que je ne veux pas lui faire de pub, mais qui est de gauche, voire d'extrême gauche, un jeune musulman vivant en France, et se déclarant lui français, bizarrement, son article n'est pas mal, et fait un article, tel jour, il est retourné en Algérie, tel jour je suis à tel endroit, tel jour je suis à tel endroit, tel jour je suis à tel endroit, et il dit, dans tel village, la police, les ninjas, parce que la police, là-bas, ils sont masqués, hein, ça prouve un grand degré de démocratie, rafle des gens dans les maisons et les zigouilles sur la place du village. Bon, ben le gouvernement français n'est pas sans le savoir. Alors donc, comme tout ça, ça va claquer du jour au lendemain. Quel est le souhait de Monsieur Pasqua? Je peux le dire ici, je le sais 5 sur 5, hein, par des journalistes qui ne sont pas de mes amis politiques, mais qui ont déjeuné avec lui. Le souhait, c'est que ça se passe après les élections présidentielles, de façon que l'arrivée en France, hein, de plusieurs centaines de milliers de soi-disant réfugiés politiques n'amène pas un ras-le-bol de la part des Français qui ne votent pas Jean-Marie Le Pen. Voilà comment est menée la France aujourd'hui, voilà comment on gère ce pays. Eh bien, moi, je dis que ces gens devront rendre des comptes demain, démocratiquement, d'après les lois de la République. Les lois de la République, telles qu'elles sont, permettent de juger ce genre de choses. Nous avons des millions et des millions de chômeurs, on nous annonce qu'on va recevoir, hein, alors Pasqua avait dit 500 000 ou 1 million aux journalistes, hein, que je connais, il a rectifié l'autre jour en disant 250 000. Alors, si c'est 250 000 hommes, hein, comptant les femmes et les gosses, on en est au même million.
Alors Roger, on va en parler tout de suite de cette affaire qui est une affaire centrale. C'est la très 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 forte probabilité de l'arrivée massive de, ouvrez les guillemets, réfugiés, fermez les guillemets, algériens en France. On va en parler tout de suite. Avant, je voudrais dire que l'article, on va quand même, tu voulais pas citer le journal, mais on va quand même le citer parce que si vous le trouvez dans une poubelle, lisez-le, ça vaut vraiment la peine. Il y a un article justement de ce jeune beurre, journaliste français d'origine maghrébine, qui est quelque chose d'incroyable, dans lequel il raconte un mois en Algérie, jour par jour, avec une impression par jour. Et dans cet article, il dit la chose suivante. Je suis arrivé depuis 5 jours et me voilà transformé en agent des services de l'immigration en France. Tous mes cousins, tous mes amis, Tous les cadres, tous les médecins, tous les avocats, tous les journalistes que je connais me supplient de leur donner un moyen de venir en France. Ils n'ont qu'une idée, c'est de venir en France, dont ils disent par ailleurs les pires choses. Ça, c'est la chose la plus importante de cet article. Ça veut dire que de la vie même et de l'aveu même d'un journaliste français d'origine maghrébine enquêtant en Algérie, on risque de voir arriver, dans les mois qui viennent, des centaines de milliers de réfugiés qui haïssent le pays dans lequel ils vont venir. Est-ce que ça, c'est une idée supportable ? Je pose simplement la question. Et maintenant, je donne la parole à Victoria qui voudrait nous lire des questions.
Non, ce n'est pas des questions, c'est des auditeurs réagissent. Ils sont contents, alors ils le disent. Ils disent quel plaisir d'entendre parler des gens normaux. Je retrouve le Serge d'avant. Continuez. Serge, soyez rassurés, ceux que vous appelez la famille sont de tout cœur avec vous. Vous êtes le seul à dire la vérité sur courtoisie. Merci, bravo.
Ça, c'est très excessif. Il y en a d'autres, Dieu merci.
On vous aime bien, on vous apprécie. Vous êtes une bouffée d'oxygène, l'expression de bon sens qui a quitté beaucoup de nos compatriotes, enfin, vous l'exprimez. Nous avons le devoir de militer, nous ne pouvons renier ce qu'ont fait nos parents avant nous, ce serait un crime.
Oui,
un employé,
un mot à propos de ça. Effectivement, cette notion de devoir, c'est très important. Vous comprenez, là, ça, on est en 94. Hein. On célèbre à la fois le 80e anniversaire de la Grande Guerre, au cours de laquelle on a perdu 1,5 million d'hommes pour empêcher une invasion. Et on célèbre le 50e anniversaire de la Libération, c'est-à-dire une guerre dans laquelle les Français se sont mobilisés pour chasser une occupation. Alors la question est de savoir si 80 ans après avoir résisté à une invasion, on va en accepter une autre, et si 50 ans après avoir chassé une occupation, on va en tolérer une autre. C'est ça la vérité. Parce que si franchement, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mes parents, mon père, mes grands-pères, se sont battus et certains ont donné leur vie pour que la France reste libre et à l'abri d'un envahisseur, si moi aujourd'hui j'accepte que mon pays soit occupé et envahi, eh bien, je mérite pas le titre d'homme, c'est tout. Et pas seulement moi, mais tous les citoyens français qui aujourd'hui tolèrent que leur pays soit occupé, ou qui demain toléreront que leur pays soit envahi, ne méritent même pas le nom d'homme. Voilà ce que je crois.
Un employé de la mairie de Paris adhère totalement à tout ce que vous venez de dire. D'accord avec vous, dit une dame, je ne suis pas d'accord comme monsieur Pasqua, je prends le métro et ne roule pas en limousine. En effet, il y a beaucoup d'insécurité. Je pense que les Français seraient plus en sécurité si M. Roger Olyndre était ministre de l'Intérieur.
Ça, c'est pas exclu du tout.
Le concordat de M. Pasqua comportera-t-il pour les musulmans l'obligation de renoncer à la loi civile islamique au profit de la loi civile française ? Je pense que c'est une pascalinade, encore une fois. À propos de la mosquée de Lyon, n'oubliez pas que celle de Rome, inaugurée il y a 2 ans, surplombe le Vatican.
Juive, mais tout ça c'est pas anodin, tout ça c'est fait,
c'est fait.
Ah, lorsqu'en plein Paris, par exemple, on voit que l'axe qui va jusqu'à la Défense, qui parle de l'arc du carrousel, qui monte jusqu'à la Défense, hein, qui se continuait sur Neuilly, a été dévié par des gens qui ont décidé que les lignes droites, c'était du fascisme. Bon, alors, on nous a expliqué que le sous-sol à cet endroit-là ne supportait pas le bâtiment de l'arc de la Défense, là-haut. Bon, alors, il n'y avait qu'à pas mettre d'arc, si c'était pour ne pas le mettre dans l'axe. Mais il n'a pas été mis dans l'axe intentionnellement. Et comment expliquer ça aux gens? On peut pas non plus, sur tous les détails, passer 3 heures pour leur expliquer. Moi-même, il y a 10-15 ans, je ne croyais pas à ce genre de choses. Et il a fallu que je sois mis devant le fait accompli, qu'on me montre d'autres exemples pour que je le comprenne.
Ça, c'est très bien expliqué par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Setzepfand et qui écrit dans une publication qui s'appelle « Sous la bannière » et qui livre depuis plusieurs mois un travail formidable sur la géographie parisienne et les manipulations à la fois politiques et magiques de la géographie parisienne. C'est passionnant. Hein. D'autres messages ?
Oui, une auditrice qui nous dit « Juive, je me sens dans une terre chrétienne et catholique. La vie publique est réglée par les fêtes chrétiennes, Pâques, l'Assomption, voilà, Noël. »
Qui n'empêche pas du tout les juifs de pratiquer.
Exactement ça.
Mais de même que si moi j'étais en Israël je célébrerai Noël en Israël, je serai bien obligé, tout simplement par respect pour la majorité qui vit dans ce pays, de respecter le rythme de vie israélien.
Il y a eu des pétitions dans certains collèges demandant que ce soit le vendredi la fête, le jour de congé en France, que le dimanche c'est uniquement pour les chrétiens.
Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ça, parce que je trouve qu'il faudrait, voilà, il faudrait que le vendredi on travaille pas pour respecter les fêtes musulmanes. Oui. Le samedi on travaille pas pour respecter les fêtes israélites. Le dimanche on travaille pas pour respecter les fêtes catholiques. Ouais. Le lundi, on ne travaille pas pour respecter les habitudes des commerçants, des bouchers poissonniers, etc. Ouais. Le mardi, on pourrait travailler, peut-être. Et puis le mercredi, il n'y a pas de raison de travailler, puisque c'est les enfants.
Et le jour de la paye, on refuse le chèque, parce que quand, étant gouverné par des escrocs, on n'a pas à prendre l'argent que nous donnent des escrocs.
Voilà.
Donc comme ça, ça peut se faire.
Voilà, hein, comme
on
ne
travaille plus, on refuse la paye, parce qu'on est digne, au moins.
Oui. Hein. Et une dernière question, là. Sait-on si M. Pasqua a eu l'occasion d'inaugurer une église catholique ?
Non, je crois pas. Je crois simplement pas.
Il y en a une qui est en construction, je ne sais où, qu'en projet dans la région parisienne, ça ressemble plus à...
Ah, la poubelle de salle de bain, là.
Je
me demande où ils vont mettre la pédale. Mais ça ressemble exactement à une poubelle de salle de bain. C'est vraiment d'appuyer sur la pédale et le couvercle se soulève.
Et un renseignement à Vernon dans l'Eure, il y a des dépliants EDF bilingues, français, arabe, et certains renseignements ne sont communiqués qu'en langue arabe.
Ça, c'est totalement illégal, il faut le savoir, c'est interdit par la loi.
Ouais.
Donc l'EDF, là, se met en contradiction avec la loi. On va voir si M. Meignerie...
Ouais, là aussi, on trouvera bien un jour, il y a une circulaire pour obliger ça. Sur les plans du métro, il paraît qu'ils vont changer tous les trucs électroniques. On va voir, il paraît qu'il y a 4 langues. Je pense qu'il y aura la langue arabe, on verra bien.
Lorsque vous parlez de la France, parlez de la France chrétienne, car en tant que protestants, nous sommes également contre cette immigration.
Oui, mais bien entendu, alors, qu'on a des amis protestants, Samuel Maréchal est protestant, il a attendu tout à l'heure. Oui, mais enfin, c'est pas...
Non, mais avec les protestants,
c'est un vieux...
Dans cette émission, c'est un vieux gag entre nous, on dit du mal, enfin, je dis du mal des protestants, et il téléphone à chaque fois pour mon guirlandais. Mais ça n'enlève rien à l'amitié fraternelle qu'on a les uns pour les autres.
Quelqu'un vous dit, il n'y a pas que des catholiques qui vous écoutent, ni des protestants. Mais moi, je suis athée et je suis 100% avec vous. Bravo, enfin un bol d'air frais. On a été quelqu'un qui a été très choqué la semaine dernière d'entendre sur Radio Courtoisie un journaliste du Nouvel Observateur.
Mais enfin,
on a le droit.
Je voudrais redire que cette radio là, c'est ce qu'on appelle, dans des termes modernes un peu ridicules, mais au moins on comprend tout de suite ce qu'on veut dire, c'est un espace de liberté. Autrement dit, c'est un lieu dans lequel on est libre de penser, libre de parler, du moment qu'on respecte un minimum de lois de courtoisie, ce que, je dois le confesser, j'ai pas toujours fait. Mais enfin, dans toute la mesure du possible, quand on arrive à résister à son tempérament, on doit rester courtois. Mais chaque directeur d'émission a le droit d'inviter qui il veut, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le droit de tout homme de rencontrer qui il veut quand il veut. Et deuxièmement, c'est encore plus le droit des directeurs d'émission de Radio Courtoisie, parce que, je le dis souvent, mais ça me paraît important, ils sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Tous les collaborateurs de Radio Courtoisie sont bénévoles. Et je crois que le droit qu'ils ont, c'est au minimum d'exiger en contrepartie de ce bénévolat une indépendance totale. Et si quelqu'un a envie d'inviter même un journaliste de l'Humanité, eh bien ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il a suffisamment d'ouverture d'esprit, et ça prouve que le journaliste de l'Humanité ou le journaliste du Nouvel Observateur a suffisamment d'ouverture d'esprit pour accepter de venir dans une émission où il sait qu'il ne sera pas forcément traité avec... la complicité ou la connivence habituelle.
Surtout si c'est un très vieux journaliste de l'Humanité qui était parmi ceux qui faisaient appel à Jeanne d'Arc à une époque pour sauver la patrie. Parce qu'il ne faut pas se tromper, mais que les cocos ont été jusqu'à défiler devant la statue de Jeanne d'Arc. Je ne parle pas des royaumes, je parle bien des cocos. Hein.
Une précision d'une auditrice, le tchador, c'est la pratique religieuse. Porter une croix, c'est seulement un signe de sa religion.
Ouais.
Et puis alors, on revient, il y a deux auditeurs qui reviennent sur le fait divers dont on a parlé au début.
Oui.
au sujet de la tuerie de cette nuit, il faudrait saisir cette occasion pour reparler de la peine de mort.
Oui, ben nous allons en reparler. Je signale que Jean-Marie Le Pen a fait un communiqué ce matin demandant le rétablissement de la peine de mort. Mais il faut dire aussi que tous ceux qui appellent bavure le moindre petit incident qui se passe avec les flics, bon, mais là, il n'y a pas eu de bavure. Ils sont descendus voir ce qui se passait, pas les mains dans les poches, mais peut-être, hein, et les autres, eux, ils en tiraient dedans au riot gun. Bon, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire, hein. Quand on est soldat, on est prêt à riposter. Quand on est flic, on est prêt à riposter. Mais comme ces malheureux flics ont tellement peur qu'on les accuse de tout et de n'importe quoi, puisqu'a priori, ils ont toujours tort avant qu'on connaisse les choses, puisque l'information est donnée avant qu'elle ne soit connue. Alors, ils racontent n'importe quoi. Le lendemain, ça peut être rectifié, mais ça n'a jamais l'impact que ça a au moment où on dit des mensonges.
Et puis deuxième question, alors là c'est alors un point qui excite aussi ma curiosité. Les médias ont décrit physiquement la jeune femme responsable des meurtres en disant que c'était une
européenne. Oui.
Le Monde dit qu'elle a répondu en français et c'est souligné, c'est encadré. Oui. On dit rien du physique de l'homme.
Et on garde quand même... Pas européen parce qu'il n'a pas répondu en français.
Parce qu'on... Non, il n'a pas pu répondre du tout, il était moitié mort. Mais enfin, tout ça, on garde les renseignements parce qu'à la télé, ils ont dit qu'on gardait ces renseignements-là parce qu'il y avait des perquisitions à faire et qu'il ne fallait pas alerter les populations.
En tout cas, oui,
j'attends ça avec intérêt.
Ça m'a beaucoup frappé, ça. Oui, à propos de perquisition, là, il y a une perquisition qui vient d'avoir lieu à Marseille, qui est quand même curieuse. Alors, je l'indique. Et je précise que les informations que je donne ne sont pas des informations qui sont tombées de la lune. C'est dans le Parisien de ce matin. Dans le Parisien de ce matin, on apprend que, à la suite de l'arrestation d'un jeune homme de 23 ans, fils de rabbin à Marseille, pour détention de 75 capsules de LSD qu'il avait reçues de Hollande par la poste, on a découvert à son domicile toute une série de photographies représentant des scènes de profanation, de cérémonies sataniques et de messes noires célébrées dans des cimetières proches de Marseille.
Mais ça n'a pas fait...
Voilà. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit.
Ça n'a pas fait
Je pense que si au lieu d'être fils de rabbin, il avait été fils d'un élu du Front National, on aurait certainement parlé beaucoup plus de cette histoire, parce que faut quand même rappeler entre nous que Marseille, c'est à peu près à 60 km de Carpentras.
Oui, oui. Hein,
voilà. C'est tout. Bon, c'était à propos de perquisition.
Non, mais c'est simplement pour le dire au passage.
Voilà, c'est ça. Bon, c'est tout.
C'est tout pour le moment, oui.
Ok. Alors, Roger, on va maintenant venir à cette affaire qui a suscité en toi la décision d'organiser une grande manifestation de résistance patriotique à la mutualité le 26 octobre prochain, ce qui est une date absolument parfaite parce que elle n'empêchera pas. J'y pense, nos amis de venir au dîner du Libre Journal, qui, je le rappelle, aura lieu le 21 octobre, c'est-à-dire 5 jours avant, le vendredi 21 octobre à 19h30, embarquement pour Citer et ses mystères, à bord de la frégate Le Zouave au métro Alma Marceau. Et nous dînerons tous ensemble, tous en bande. Je signale que, alors, les prix, c'est pour les non-abonnés au Libre Journal, 250 francs. Pour les abonnés au Libre Journal, 220 francs. Et je signale une chose qui est très importante, c'est que le Zouave lèvera l'ancre à 20h30. Donc, il faut impérativement que vous soyez là avant 20h30. Autrement, vos 250 francs, c'est comme si vous les aviez jetés sous le pont de l'Alma.
De toute façon, moi, je te ferai l'honneur de venir, à moins que j'ai un meeting en province.
Non, enfin,
je suis en train de décaler des meetings.
Je suis certain que tu n'auras pas de meeting en province, il faut que tu sois là. Il y aura tout le monde, comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait l'évêque dont je parlais tout à l'heure, qui a dîné à la table de Jean-Marie Le Pen. Et c'était d'ailleurs assez extraordinaire d'assister à la conversation entre Le Pen et un évêque africain. Qui ont fini dans les bras l'un de l'autre, bien entendu, c'était tout à fait charmant. Il y aura beaucoup de monde, il y aura tous nos amis, et donc si vous voulez venir, eh bien, vous nous le faites savoir au Libre Journal, soit en téléphonant, soit en envoyant votre chèque de réservation, ce qui vaut beaucoup mieux. L'adresse, c'est 139, oui, c'est bien de sortir... Ah non, je croyais que tu sortais ton carnet de chèques, Samuel.
Tout à l'heure.
Donc, c'est 139 boulevard de Magenta, 75-010 Paris. Je vous rappelle que le prix du dîner est de 220 francs si vous êtes abonné, 250 francs si vous n'êtes pas abonné. Et si vous vous abonnez, donc vous économisez 30 francs, bien entendu.
C'est exactement vrai ce que tu as dit tout à l'heure. D'ailleurs, tout ce que tu dis est vrai. Mais en ce qui concerne la mutualité, et j'en profite que Samuel arrive là avec nous, puisqu'il sera, il sera partie prenante dans cette réunion qui est organisée par le Cercle National des Combattants. C'est à l'annonce de cette arrivée programmée et massive, hein, de soi-disant réfugiés politiques algériens, que j'ai décidé et que le comité directeur du Cercle National des Combattants m'a suivi, hein, parce qu'il faut quand même savoir, je l'ai déjà dit l'autre jour, et je remercie les gens qui ont envoyé des chèques, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché, parce que je parlais de Sologne au téléphone, et des gens envoyaient des chèques en disant, très bien ce que fait Hollande, bravo Roger, continue, on n'a pas beaucoup de fric, mais on aide. Bon, il faut quand même savoir que pour les partis nationaux, qui n'ont pas d'argent, une mutualité, c'est un investissement de 50 000 francs. Eh bien, nous sommes partis tête baissée, nous avons loué la mutualité, on a emprunté de l'argent, on ne lésine jamais quand il s'agit de la patrie, ce ne sont pas des mots en l'air. Je demande à tous les amis de Paris de venir, nous remplirons la mutualité qui, quand elle est bien pleine, fait 4000 personnes, pour nous, ça donne dans les journaux quelques centaines de personnes, les cocos allant, eux, jusqu'à 12 000 personnes dans une salle qui peut en contenir 3 500, 4 000. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas ce qui est dit, c'est ce que l'on voit autour de nous. Hein. Il faut revenir à la grande famille que nous étions, qui est un peu fatigué de toutes ces élections où nous nous battons, mais qui cette fois-ci, je le sais, derrière Le Pen, a décidé vraiment de monter au créneau. Et je demande à l'avance qu'il n'y ait pas d'énergumènes dans la salle qui poussent des cris ou qui font des déclarations qui seraient n'importe quoi. C'est ce qu'attendent les gens d'en face. Nous qui sommes sur les tribunes, nous parlons en notre nom. Quand nous écrivons quelque chose, nous signons de notre nom. Nous engageons bien souvent beaucoup de choses dans cette affaire. Hein, là, je n'appelle pas à descendre dans la rue. J'appelle à la résistance. Parce que je le répète encore, le jour où il y aura 3 lascars qui seront arrêtés, un avec un pistolet à bouchon, l'autre avec un chargeur de mitraillette Sten, et le troisième avec une épée, hein, eh bien, Monsieur Pasqua dissoudra le Front National dans l'heure qui suit. Alors, on peut faire de la résistance et on expliquera là comment nous entendons faire de la résistance. Alors, ceux qui veulent faire autre chose, il ne faut pas venir. Mais ceux qui veulent faire de la résistance, il faut qu'ils viennent. Parce que quand on dit, oui, mais on va descendre dans la rue, ça, je dis, moi, j'ai déjà donné. Et j'explique, et je profite d'être à Radio Courtoisie pour m'expliquer encore une fois. Bien que métropolitain, j'ai été, après avoir été grièvement blessé dans un combat au corps à corps, je suis resté à l'hôpital 3 semaines, et là, j'ai réfléchi longuement. Alors, des idiots disent, ah oui, les parents, ils n'avaient pas réfléchi jusque-là, ils se disent, bah, peut-être pire. Si, on avait réfléchi, mais on comptait gagner militairement. Et là, j'avais pensé que nous allions gagner militairement, mais qu'on allait être foutus politiquement et qu'on serait vendu par Paris. Alors, en sortant de cet hôpital, au lieu de rengager, puisque j'avais déjà 10 ans et demi de service effectif, 10 ans et demi de campagne, ce qui est totalement différent, j'ai dit, bon, ben, je quitte l'armée parce que je vais me battre politiquement, parce que c'est là qu'on nous attend. Hein, et puis, je me suis occupé de la jeunesse musulmane, je me suis occupé d'une troupe scout, je me suis occupé de gens que j'ai amenés à la France et qui défilaient en chantant tous les jeudis dans Tébessa, avec les cuissons tricolores et tout. Tous les gens le savent, tous les gens de la région le savent, ils m'ont connu, ils savaient ce que représentait cette maison de jeunes, 300, 350, 400 jeunes, hein, en uniforme scout, avec des écussons France, sur l'épaule qui défile dans un village algérien, ça ne se voit pas tous les jours. Et puis après, les choses, comme aujourd'hui, petit à petit, les choses ont été magouillées, nous avons été trahis complètement, et j'ai dit, moi, je ne partirai pas avec ma valise, moi je prends le maquis. Et recrutant deux anciens officiers du deuxième bureau, j'ai fait mettre en fiche tous ceux qui étaient volontaires pour prendre le maquis. Nous avons récupéré de l'armement, ce qui en Algérie était quand même assez facile, nous avons tout préparé, et j'avais 600 types en fiche. 600 types en fiche. Tous ces gens à qui, quand nous demandions de distribuer des tracts ou d'envoyer du courrier en métropole expliquant ce qui allait devenir de Marseille, qu'il allait advenir de Marseille, de tous les ports de la Méditerranée, de nos usines et tout, si on perdait l'Algérie et le Sahara, le mec disait, toutes vos histoires, hein, vous commencez à nous emmerder, le jour où il faudra descendre dans la rue avec la Thompson, publicité gratuite, hein, eh bien, vous nous appellerez, mais votre politique, on n'en a strictement rien à secouer, c'est ce que dit M. Longuet, rien à secouer, bon, à ce moment-là, c'était rien à secouer. Bon, alors, on a dit, bon, avec des gars comme ça, c'est loin d'être perdu. Hein. Non seulement on garde l'Algérie, le Sahara, mais on va conquérir le restant. J'avais donc 600 types en fiche, hein, faites comme il faut, que les flics ne pouvaient pas exploiter. Et puis un jour, j'ai dit, bon, mais les enfants, ça y est, hein, ça sera certainement dans un mois et demi. J'ai un voyage prévu en métropole avec mes gosses, je vais les faire défiler une dernière fois à Paris, et ensuite, hein, on prendra le maquis. Et puis le jour est arrivé où nous avons décidé de partir, où j'ai donné le top, il fallait partir. J'ai regardé ma femme, j'ai regardé ma fille, j'ai regardé tous mes biens que j'avais construits en quelques années à Tébessa, et au moment voulu, à l'heure voulue, à la minute précise où c'était décidé, je suis parti au maquis. Hein, j'attendais mes 600 types. Je les attends toujours. Bon, nous étions 4. Alors, il se trouve que j'ai récupéré sur le cours Bertagna à Beaune un nain. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, un nain et un gars que j'avais connu à la Légion en Indochine, qui était complètement bourré, hein, qui, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là, Stan? Hein, il me dit, ben, je cherche du boulot. Dans quoi? Ben, je suis pelleteur, je cherche du boulot dans une entreprise de travaux publics. Je dis, tu préféreras pas une mitrailleuse ou un fusil mitrailleur? Ah ben oui, allez, viens au maquis avec moi. C'était comme ça que j'ai renforcé mes effectifs, puis j'ai presque d'un tiers de plus, hein, un nain et un petit pied noir, très courageux, et un légionnaire bourré. Hein. Bon, on était six au maquis. Alors depuis, quand on me dit mais on va descendre dans la rue et tout, je dis non, non, non. La seule chose qui peut les emmerder en face, c'est qu'on gagne par les voies démocratiques. Puisqu'ils parlent de démocratie, nous sommes capables de gagner par le vote. La seule chose qu'il faut, c'est leur faire savoir dès aujourd'hui que toutes leurs trahisons sont notées. Que par exemple, dans une mairie, le gars qui ne contrôle pas un dossier d'un immigré clandestin et lui donne 4 ou 5 000 francs ou 10 000 francs ou autre, il faut que ce gars-là sache que demain, on lui retiendra sur sa paye. Et s'il est en retraite demain, on saisira ses biens, comme la loi nous y autorise. Que le gars qui fait des déclarations, par exemple, Monsieur Pasqua n'avait pas à dire la deuxième religion de France, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, je n'en sais rien, je m'en fous. La religion, la première en France, c'est la religion chrétienne. Point, virgule, à la ligne. Quand Monsieur Giscard d'Estaing dit, vous êtes ici chez vous.
Monsieur Mitterrand, tu dis.
Monsieur Mitterrand, mais l'autre avait parlé exactement dans le même sens, puisque que ce soit Monsieur Mitterrand, que ce soit Monsieur Giscard d'Estaing, que ce soit Monsieur Pasqua, que ce soit Monsieur Chirac, ils sont tous liés par des ententes internationales. Comité de Bilderberg, j'en passe des meilleurs. Ce mondialisme ne s'est pas mis en place tout seul. Les ficelles sont tirées par quelques personnes, et je lirai à la mutualité une déclaration, hein, des principaux responsables, hein, de comités internationaux qui expliquent, hein, comment ils en sont arrivés là aujourd'hui et grâce à qui ils en sont arrivés là aujourd'hui. Alors c'est le moment de dire non. Le moment de dire non, hein, c'est comme ces 15 femmes qui sont rentrées de l'Ouganda, hein, où elles avaient été toutes violées, hein. Alors oui, moi j'ai été violée 15 fois, 12 fois, tout ça. Puis arrive une fille, un monument de film. Alors tous les journalistes un peu vicieux se précipitent. Et vous, mademoiselle, vous avez été violée? Non. Vous n'avez pas été violée? Non. Et pourquoi? Mais moi, j'ai dit non. Eh bien, nous disons non. Nous sommes comme cette belle fille, nous disons non. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça suffit. Ils doivent savoir, et ce sera le 26 octobre au soir, le jour 1 de la résistance. Ça aurait pu être un premier de mois ou un... Non, c'est le 26 octobre. Voilà. J'appelle à la résistance. Le Cercle National appelle. Des combattants appellent à la résistance, Samuel Maréchal sera là, Bruno Gollnisch appellera à la résistance, Franck Timmermans appellera à la résistance, lui parlera de, Samuel parlera de ce qu'il connaît, la jeunesse, Timmermans parlera de ce qu'il connaît, les banlieues rouges devenues banlieues islamiques. Le Bruno Gollnisch parlera de ce qu'il connaît, la montée de l'islam à travers le monde, aujourd'hui soutenue par le nouvel ordre mondial, hein, de monsieur Clinton, hein, et ça clique, et moi je ferai l'historique de tout ça, et au nom de tous les copains qui sont morts, j'appellerai à la résistance. Donc le 26 au soir, nous sommes en résistance, et c'est pas pour arrêter le 27, on continue comme ça, et on va leur faire savoir que nous surveillons tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Et s'ils ne sont pas contents, ils nous mettront en prison. Moi, je suis prêt à y aller, mais qu'ils m'expliquent pourquoi. Qu'ils expliquent pourquoi. Nous irons en prison, mais qu'ils expliquent pourquoi. Ils seraient bien incapables. Puisque ce que nous disons, nous ne faisons tout qu'on ne fait que répéter aujourd'hui, hein, ce que disent les journaux, hein, ces journaux qui répètent ce que nous disons depuis 20 ans. Donc, il n'y a pas de raison qu'en brandissant ces journaux, moi, je suis même prêt à lire certains journaux de gauche, puisqu'ils disent pire que nous. Alors qu'ils nous mettent en prison, mais le 26 octobre au soir, hein, nous rentrons en résistance.
Mon cher Roger, il n'y a pas besoin de prendre les journaux de gauche. Là, j'ai un auditeur qui m'envoie un fax, qui est un titre du Parisien Libéré. C'est pas un journal de gauche, le Parisien Libéré. Alors je lis ce titre. « Un problème angoissant, l'afflux sans cesse croissant des Algériens en France, 50 000 arrivés le mois dernier. » Trop souvent sans travail et sans logement, un grand nombre d'entre eux multiplient les agressions et les vols. Un protocole a été signé hier entre la France et l'Algérie, mais sera-t-il efficace pour l'interrogation, voire page 9. Alors je signale quand même que c'est un numéro du Parisien Libéré, c'est la page 1 du Parisien Libéré du 9 avril 1964. Alors maintenant, 30 ans plus tard, on a la réponse, hein. Sera-t-il efficace le protocole? Ben, vous savez ce qu'il en est.
Oui, mais ce qui est dramatique, Samuel, c'est que même dans nos rangs, il y a des gens qui disent encore, mais enfin, vous n'exagérez pas un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que on en ait jusque par-dessus la tête pour que les gars comprennent. Hein, je distribuais des tracts l'autre jour encore sur le marché à Sevran, hein, et j'expliquais aux gens, mais il est temps de se réveiller. Bon, sur ce marché, il y avait des anciens harkis que je connais qui sont ici chez eux. Il y avait des Martiniquais, des Guadeloupéens que j'ai toujours considérés comme français. Bon, il y a des gens qui, le couteau sur la gorge, ont choisi la nationalité française. Bon, ça représente 3 ou 4% de cette population venue de l'étranger. Mais comme 98% des gens qui étaient là étaient des étrangers sur un marché d'une ville française, si on enlève les gens que l'on veut admettre chez nous, et nous avons le droit chez nous de dire nous voulons cela et nous ne voulons pas cela, ce ne sont pas des gens qui sont français depuis avant-hier qui vont nous expliquer comment on doit gérer ce pays, ou alors, comme tu le disais tout à l'heure, qu'ils fassent des excuses à tous ceux qui sont tombés pour garder les frontières, qu'on fasse des excuses, hein, aux gens de 14, aux millions et quelques qui sont tombés en 14, qu'on fasse des excuses aux 140 000 qui se sont quand même sacrifiés au moment de l'invasion allemande en 1940, parce qu'on oublie qu'il y a 140 000 types qui sont morts au combat, qu'on fasse des excuses aux déportés, et puis qu'on verse de l'argent à tous les descendants de ces gens-là. Où ils se sont trompés, hein, et il faut s'excuser, ou ils avaient raison, et il faut leur rendre hommage en respectant le sang qu'ils ont versé.
Merci Roger. Alors rendez-vous le 26 octobre à 20h.
20h30.
À la mutualité, vous connaissez l'adresse.
Et je promets que ce sera une grande messe. Je promets que ce sera une grande messe patriotique. Ça sera pas un truc gaucho, ça sera pas un truc. Ça sera rien d'autre qu'un grand truc patriotique. Hein, et là. Eh bien, on va décharger nos batteries, comme je le dis souvent, pour recharger celles de nos amis qui sont venus entendre. Il s'agit pas de faire du bruit le lendemain, il s'agit de rentrer en résistance, de contrôler, c'est notre droit de citoyen, de noter pour se rappeler les heures, les dates et tout. Ceux qui trahissent le pays doivent savoir que le 27 au matin, et même le 26 octobre au soir, en sortant de la mutualité, eh bien, les gens auront leur carnet et leur crayon et commenceront à marquer tous les actes de trahison. Et on demandera des comptes, et surtout aux fonctionnaires de l'État.
Question pratique. Pouvez-vous rappeler le prix de l'adhésion au CNC ? Parce que, dit cette auditrice, je vais certainement adhérer. Vous avez dit, nous entrons en résistance, donc j'adhère.
Ben, je crois que la cotisation est de 150 francs par an.
Et il faut l'adresser à quelle adresse ?
Eh bien, Cercle National des Combattants, 38 rue des Entrepreneurs, 75-015 Paris.
Très bien.
Samuel Maréchal, bonsoir.
Bonsoir,
Serge. Alors, Samuel Maréchal, je le rappelle, est directeur du Front National de la Jeunesse.
C'est cela.
Et je lui ai demandé de venir ce soir pour donner ses premières impressions. On fera une émission, on devait la faire il y a quelques semaines, et puis elle a été reportée pour des raisons indépendantes de nos volontés, des raisons d'éloignement. Mais tes premières impressions, Samuel, en ce qui concerne cette affaire du questionnaire de la jeunesse.
Bah, pour employer un terme très à la mode, chez la Watt dure là-bas. C'est-à-dire que le camarade de Balladur s'est lâché. C'est chez la Watt parce que c'est l'émission d'un de ses conseillers en jeûne. C'est l'émission du fameux doc de Love in Fun, émission immonde de Love in Fun, qui maintenant est sur France 2 pour nous expliquer tous les samedis soirs qu'il faut que les jeunes se lâchent. Et là, cette fois-ci, c'est Balladur qui s'est lâché sur les conseils de son slipologue, on pourrait appeler ça comme ça, ou de son bébé doc. Et je crois que Balladur s'est planté. Voilà. Il pensait qu'il pouvait manipuler la jeunesse à des fins électoralistes en lançant cette grossière manipulation qui a été le questionnaire, envoyé, il faut quand même se rappeler, à 25 millions d'exemplaires pour toucher que 9 millions de personnes, 9 millions de jeunes.
Oui, bravo les postiers.
Bravo les postiers, c'est même pas eux les pauvres. Et c'est une opération électoraliste. Il y a eu 17,1% des répondants, non pas sur le nombre d'envoyés, mais sur ceux qu'on voulait toucher. Donc personne est certain que les jeunes, que ce sont les jeunes qui ont répondu. Et même si on écarte cette idée, il y a qu'un seul jeune sur cinq qui a répondu. Donc le succès, le raz-de-marée extraordinaire annoncé par Balladur après les premiers résultats, c'est un petit peu le raz-de-marée de l'abstention. Donc de ce côté-là, il s'est planté. Il a utilisé l'argent des contribuables français pour sa campagne présidentielle, en fin de compte, pour ses propres intérêts. Et mieux aujourd'hui, après la remise des 57 propositions par le fameux comité, par les fameux postes branchés, il y a la concierge du petit écran aussi, Mireille Dumas, qui participe, la fameuse de France 2 aussi, eh bien, il est obligé aujourd'hui de prendre des mesures, promptement, avec beaucoup de hâte, parce que s'il n'en prend pas, c'est la révolte. C'est la révolte des jeunes. Ils ont été bernés une fois. Balladur avait réussi de les calmer après l'affaire du CIP en proposant ce qu'on avait appelé, nous, la rente d'intérêt patronal, c'est-à-dire qu'on donnait 1000 francs aux chefs d'entreprise par mois pour qu'ils prennent un petit jeune en formation. Ça avait calmé le jeu, mais je pense qu'il a voulu aller plus loin, sans doute mal conseillé par ses proches, et puis maintenant ça se retourne contre lui. Donc il faut qu'il prenne des mesures, mais quelles mesures va-t-il prendre ? Est-ce qu'il va rabaisser l'âge de la majorité ou l'âge du droit de vote ? Enfin, on pourra en parler longuement. Ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que les 50 mesures, les 50 premières propositions, créent pour la première fois une fracture nette entre la jeune génération et les autres. Alors, et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave.
Je voudrais poser une question quand même. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quand même une espèce d'indécence je crois qu'on peut employer le mot, à ressasser sans arrêt le malaise de la jeunesse, le désespoir de la jeunesse, la désespérance de la jeunesse, dans un pays où, il y a 80 ans, jour pour jour, on envoyait des gosses de 18 ans à la boucherie, sans leur soumettre le moindre questionnaire. Hein. On leur disait, tu prends ton flingot, et tu prends le train à la gare de l'Est, et direction la Marne, où tu vas te faire hacher menu par des obus.
Mais c'est pas le malaise de la jeunesse.
Alors, ceux-là, quand on, ceux-là, ils avaient le droit d'être désespérés, parce que quand ils partaient, ils étaient... Il y avait quand même de forts risques de ne pas rentrer, ou de rentrer avec un bras en moins, ou une jambe en moins, ou de rentrer aveugle. 80 ans plus tard, on a des merdeux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent pleurnichailler parce qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'émission pour les jeunes sérieuses à la télévision, il n'y a pas assez de radio pour les jeunes, il n'y a pas assez de stades pour faire du football. Moi, personnellement, je dois dire que j'en ai ras le bol de ce discours. De ce discours de la désespérance de la jeunesse, ces merdeux n'ont qu'à se prendre en main au lieu de se désespérer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ?
Oui, moi je suis presque de ton avis. Mais tu sais qu'on n'est pas toujours d'accord, oui, surtout, et tant mieux. Tant mieux, parce qu'au moins ça alimente le débat. Non, je crois que ce n'est pas le malaise de la jeunesse. C'est le malaise des hommes politiques, des politiciens, de l'établissement, vis-à-vis d'une partie de la jeunesse, qu'ils ont communément appelé les jeunes, ceux qui sont là, qui sont totalement déracinés, qui mettent le désordre dans nos cités, c'est vraiment ça. Et c'est là le malaise. Moi, je suis désolé, s'il n'y a que 17% des jeunes qui répondent, c'est qu'il y en a 73 pardon, qui ne rentrent pas dans le jeu de Balladur et qui ne sont pas des dupes. 83, oui, merci. S'il n'y a qu'aussi peu de jeunes qui participent à tout cela, ça prouve bien qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas de malaise précisément. Il faut pas mélanger tout. C'est-à-dire que l'établissement veut absolument
ce que je voulais dire,
mélanger la jeunesse. Ben moi, je suis désolé, il y a la jeunesse française méritante aujourd'hui dans ce pays, et il y a les jeunes. Voilà. Il y a les jeunes qui foutent le bazar dans notre pays, qui font que les lycées, les endroits où on doit apprendre, eh bien, sont devenus des ghettos, où c'est la loi du plus fort, ou la loi de l'arme qu'on sort. Il y a 350 lycées en France qui sont considérés comme étant des lycées à haut risque, mais parce que on laisse rentrer les bornes des cités à côté dans le lycée pour venir racketter, pour venir payer, pour venir dealer, c'est-à-dire vendre de la drogue, à des petits jeunes français qui n'ont que pour se défendre que leur grande gueule, si vous pouvez me permettez cette expression, et qui n'ont que ça parce que l'administration est complice en ne faisant rien. Voilà. C'est là le problème, c'est pas autre chose. Il faut arrêter. Voilà. C'est pas les problèmes de la jeunesse française. C'est les problèmes des hommes politiciens avec ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire les jeunes. Voilà.
Alors, comment ont réagi en général les jeunes du Front National de la Jeunesse à ce questionnaire ? D'abord, est-ce qu'ils l'ont reçu ?
Ils l'ont reçu, enfin, tout le monde a reçu ce questionnaire, normalement.
Non, justement, moi, depuis que j'en parle, on en a parlé plusieurs fois à cette émission, on a toujours des appels de gens. Là, par exemple, une auditrice nous dit, nous avons 5 enfants, dont 4 grands, nous avons des neveux, des cousins, des amis. Ils n'ont rien reçu, ils n'ont pas eu le questionnaire. Moi, j'ai 2 fils, j'ai pas eu de questionnaire à la maison, je l'ai jamais vu, ce questionnaire. Donc, à qui a-t-il été envoyé ? Qui l'a reçu ?
À tous ceux, normalement, qui ont une boîte aux lettres. Voilà, c'est-à-dire à tout le monde, presque.
Non, apparemment pas, non, je crois que tout ça est une gigantesque imposture.
La réaction que nous avons eue, nous, lorsque Balladur a lancé son questionnaire, on a fait appel au boycott. Parce qu'on n'est pas des idiots, voilà. On ne va pas rentrer dans le jeu baladurien, dans le jeu électoraliste et dans cette mascarade. Donc on a dit, on fait un appel au boycott. Alors, le boycott a fonctionné, parce qu'il semblerait qu'il y ait 4 jeunes.
4 jeunes sur 5.
Qui n'aient pas répondu, donc tant mieux. Comme quoi, on est très fort. Mais non, mais plus sérieusement, on a fait appel au boycott parce que c'était ingérable. Ingérable. C'est-à-dire que lorsqu'on touchait 9 millions de personnes, qui rentrent dans une catégorie précise, on n'envoie pas 25 millions de questionnaires comme ça dans la nature. Deuxièmement, ça a été fait sur l'argent du contribuable. alors que c'était, on ne pouvait pas collaborer à cette chose.
Et troisièmement, c'est
une action électoraliste. Et troisièmement, troisièmement, c'est que nous, contrairement aux autres jeunes, on n'a pas vocation à voir se multiplier un fossé entre notre génération et nos aînés. On n'a pas vocation à être traité comme les nouveaux handicapés de la société française. Parce que c'est ça, les mesures, les mesurettes aujourd'hui, c'est cela. Maintenant, quand vous êtes jeune Français, eh bien, vous avez votre petite file. Bientôt, on va vous donner vos voiturettes, vous montrer, vous irez dans telle prison parce que elle est adaptée pour vous, et vous aurez tel éducateur. Enfin, voilà, on n'a pas vocation à être l'abranchement de la société. Et on n'a pas vocation à être dirigé comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait fait appel au boycott total. Je vous rappelle quand même que lorsque le FNJ avait dit que c'était ingérable, seul technicien de l'INSEE avait embrayé là-dessus. En revanche, aujourd'hui, la meute des sociologues hurle avec la meute des gens qui sont contre ce questionnaire et qui parlent de je vais les citer. Plusieurs démographes et sociologues issus notamment de l'INSEE ont jugé la représentativité des résultats inexistante, mis en garde contre l'exploitation statistique et se sont interrogés sur la valeur et l'opportunité de l'opération. Voilà ce qu'on avait dit, nous.
Moi, je fais deux remarques à ce propos. La première, c'est que cette opération est la porte ouverte absolument à toutes les manipulations. C'est-à-dire que si monsieur le slipologue de Balladur... Comme tu dis, c'est une très jolie formule. Oui. S'il décide dans sa tête qu'il a une idée qu'il voudrait présenter comme un projet des jeunes, personne au monde ne peut l'empêcher de le glisser parmi les propositions en disant qu'il a tiré cette idée de la lecture du questionnaire. Parce que personne ne passera derrière lui pour vérifier le contenu de ces, je sais pas, 1 500 000 questionnaires qui ont été remplis. Donc c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Et on en a une preuve quand même extraordinaire. C'est que, voilà, il y a un auditeur qui dit, j'ai 69 ans, je suis invalide, et moi je l'ai reçu le questionnaire pour les jeunes. Voilà, c'est ça.
Il a répondu.
On est en France, quoi, c'est le fonctionnement de l'administration, c'est ça. Et j'espère qu'il a répondu, bien sûr. Mais, alors, il y a une chose qui démontre que ce questionnaire, ces réponses et ce dépouillement relève de l'imposture la plus totale. Personne n'a relevé ça. Et pourtant, c'est tout à fait frappant. Parmi les 57 mesures qui sont extraites des réponses au questionnaire, vous avez remarqué qu'il n'y a pas une qui fasse la moindre allusion, même de loin, à la question de la télévision. C'est-à-dire que les jeunes disent « on veut être représenté dans des commissions consultatives partout, on veut des commissions consultatives dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les commissariats, dans les maisons de la culture, dans les mairies, à la sécurité sociale. On veut être présent partout. » À propos de la télévision, rien, ils ne demandent rien. C'est absolument impossible. Les jeunes, on le sait statistiquement, regardent la télévision en France entre 2 et 6 heures par jour. Vous n'allez pas me croire qu'il n'y a pas un jeune qui a eu l'idée quand même d'écrire « on voudrait participer à l'élaboration de programmes spécifiques à la télévision ». Pas un n'a parlé de ça.
Il y a une petite chose qui pourrait quand même être signalée, c'est qu'il y a une proposition, création d'une nouvelle carte jeune, non pardon, création d'une commission consultative des jeunes auprès du CSA.
Alors, ce n'est pas pour la télévision, c'est pour les radios libres. Ça, c'était typiquement une opération bébé doc, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer des groupes de pression qui vont défendre les radios porno, les radios rock cochon, etc. C'est pas pour autre chose. Il n'est pas du tout question de la télévision là-dedans.
Il n'y a aucune proposition aussi pour la famille.
Voilà, mais évidemment.
Bon. Aucune proposition pour la famille, alors que c'est ce qui est ressorti.
Alors,
certain que M. Balladur, comme tous ses prédécesseurs et comme tous les gens qui l'entourent, qui soient soi-disant de droite, et puis les penseurs du PS, parlons pas du PC, mais du PS, les radicaux, les centristes et tout ça, ils ne veulent pas d'une jeunesse française qui se sauve. Parce que la seule façon, il n'y a qu'à me donner la responsabilité. Moi, je prends la responsabilité. Je m'engage pour 3 ans. Si dans 3 ans, je n'ai pas réussi, on me pend. Voilà, c'est pas compliqué. J'accepte, je signe tous les papiers. Je demande 3 ans et on me pend. On me donne le 10e de l'argent qui est donné inutilement aux banlieues. Et je fais dans chaque commune une troupe scout. Hein, et on rétablit la situation. Parce que dans le Parisien libéré, à qui je ne veux pas faire de pub, mais enfin qui par moment est correct sur la scène Saint-Denis, eh bien, il y avait une enquête, une vingtaine de questions posées à une vingtaine de personnes dont on voyait les photos. Alors, il y avait tout un tas de gars qui répondaient n'importe quoi. Bon, et il y avait une question au curé. Alors, le curé disait, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que voulez-vous, mais que voulez-vous que je fasse? Vous comprenez? Mais pauvre crétin, t'as qu'à faire comme faisaient les curés avant toi. Les banlieues n'existent pas d'aujourd'hui. Hein, il y a même eu des films avant-guerre. Je me rappelle Notre-Dame de la Mouise. C'était l'histoire d'un curé qui était au milieu de jeunesse délinquante. Eh bien, il y avait le patronage, il y avait le film. Bon, maintenant, il y a la télé, on peut faire autre chose. Il y avait la troupe scout. Bon, le seul gars qui dit quelque chose d'intelligent, faut quand même le reconnaître, c'est l'imam du coin. Il dit, moi, je m'occupe des gosses, ils s'amusent, ils viennent ici, on les fait prier, on leur apprend la religion et tout. Le curé, il peut pas faire la même chose, lui. Hein? Ben voilà, le résultat est là. Tout ça aussi, on l'a dit depuis longtemps. Il n'y a qu'à donner un peu d'argent, faire des troupes scouts, hein, et puis s'occuper des jeunes, vraiment faire des trucs sportifs avec de l'encadrement. Maintenant, ils sont encadrés par des loufias qui ont exactement les mêmes têtes que boucles d'oreilles et tout. Non, il faut des gens qui donnent l'exemple.
Merci Roger. 26 octobre, 20h à la Mutualité, si vous voulez encore plus de Roger Alain, et si vous voulez encore plus de Samuel Maréchal aussi, puisqu'ils seront là tous les deux.
Franck Timmermans.
Et avec Franck Timmermans et Bruno Gollnisch. Merci messieurs. Merci, Samuel, à bientôt pour une émission plus complète sur le questionnaire.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 5 octobre 1994, diffusé le dimanche 15 juin 2014, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Comme d'habitude, je vais voler 5 minutes à Daniel Amiche et au Fou du Roi pour interviewer Marc Dem, puisque on est très coincé, il y a beaucoup de questions. Donc je vous rappelle que Marc Dem publie toutes les semaines une lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et dont vous pouvez vous procurer un spécimen en écrivant boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye. Je vous recommande de la lire, elle est passionnante et on recevra Marc Dem un peu plus longuement la semaine prochaine. Je lui présente mes excuses pour ce lapin inhabituel. Alors,
j'ai des questions précises.
Voilà.
Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur l'exposé que fait Monsieur de Bekech demain soir?
Oui, alors demain je serai à l'atelier de l'Éclipse. C'est à 20h. C'est à 20h et l'atelier de l'Éclipse tient ses assises. Alors là, j'ai pas l'adresse sous les yeux malheureusement. Et je ferai. Mais si vous téléphonez demain au journal au 42 80 09 33, au libre journal, on vous donnera le renseignement très précisément et je ferai une conférence ou plutôt un exposé, ce sera très technique, sur le fonctionnement financier de la presse, la vérité sur la façon dont la presse est financée par la publicité. Et les chiffres que je donne dans cet exposé, personne ne les a jamais donnés. C'est vraiment, à chaque fois que les gens entendent ça, ils sont, je dois dire, renversés. Parce que personne n'imagine cette vérité. Voilà. Atelier de l'Éclipse, demain à 20h, Alors, j'ai plus l'adresse en tête, c'est idiot. Si quelqu'un pouvait téléphoner très vite, je pense que Daniel Amiche aurait la gentillesse de rappeler l'adresse tout à l'heure.
Et puis, on vous demande aussi des détails sur le dîner du Libre Journal de la France Courtoise. Est-ce que c'est seulement un dîner? Y a-t-il une animation?
Oh, c'est un dîner animé. Il y aura, bien sûr, comme l'année dernière, on est toute une bande de copains. On mange un pot-au-feu, je pense. C'est ça, hein, Philippe, il y aura un pot-au-feu, probablement. Et puis on boit du vin de Cahors, on chante, on fait des petits discours. L'année dernière, le président Le Pen avait fait un discours magnifique. Et puis voilà, puis on est ensemble, on aime bien être ensemble et c'est une soirée d'amis, quoi. On ne danse pas, non. C'est une soirée d'amis.
Est-ce que vous pouvez nous préciser aussi le nom de l'auteur et de l'éditeur du livre « Sous la bannière » ? Comment peut-on se le procurer ?
Pareil, soyez gentil de téléphoner demain au Libre Journal au 42 80 09 33. Je vous donnerai tous les renseignements concernant « Sous la bannière ».
Et puis nous avons eu une avalanche de messages de personnes d'âge qui ont dit qu'elles avaient eu le questionnaire et que puisqu'on leur avait envoyé, eh bien elles avaient répondu.
Bah oui, c'est normal. Mais d'abord, on n'a jamais que l'âge de ses artères. Alors l'atelier de l'éclipse, c'est 3 rue de l'asile Popincourt. Ça me fait toujours rire. Ça. Bon, pourquoi d'ailleurs ? Atelier de l'éclipse, 3 rue de l'asile Popincourt, Paris 11e. Faut que je garde l'adresse si je veux pouvoir y être demain, ça sera plus facile avec l'adresse que ça. Voilà. Donc je vous rappelle les rendez-vous de l'actualité la plus brûlante. Premier rendez-vous le 21 octobre à 19h30 sur la frégate Le Zouave qui partira du port de l'Alma pour le dîner du Libre Journal. Dîner d'amis. Il y aura pas de discours. Il y aura pas. Non. Il y aura des choses comme ça. Il y aura certainement les gens du chœur montjoie qui viendront chanter. On essaiera de les foutre à l'eau. Enfin, on fera des choses comme ça, quoi. Vous voyez, une soirée amusante et sympathique. Ça, c'est le 21 octobre. Le prix est de 220 francs si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, on vous tolère, mais ça vous coûte quand même 30 francs de plus. C'est 250 francs. Ah oui, c'est comme ça, mon cher Daniel. Et Daniel Amiche sera là. Parce que les amis sont des amis. Sont obligés de venir. Voilà. Et le deuxième rendez-vous, c'est à la Mutualité, le 26 octobre à la même heure, à 19h30, 20h. À 20h, pour la grande soirée patriotique organisée par Roger Olindre. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je demande infiniment pardon à Marc Dem de lui avoir fait faux bond. Je lui dis rendez-vous la semaine prochaine où je lui donnerai toutes les compensations possibles. Et je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu nous garde.
Eh bien, bonsoir. Nous sommes, ça y est, le rouge est mis. Donc, il y a un petit peu d'animation dans le studio. C'est normal, puisqu'il y a le passage, vous savez, de la partie de notre ami Serge à la mienne. Et alors, il y a tout un va-et-vient de personnalités qui arrivent, qui partent. Enfin, c'est toujours un peu compliqué parce que les auditeurs doivent savoir imaginer que nos conditions de travail sont un peu difficiles. On est dans des studios tout petits. Nous sommes une radio pauvre, mais fière de l'être quand même. Enfin, peut-être pas fière d'être pauvre, mais enfin, fière de ce qu'on fait. N'oubliez pas de payer votre cotisation. Alors, c'était l'abbé Chanu qui demandait d'ailleurs, avec beaucoup d'à-propos, aux auditeurs de bien vouloir songer à payer leur cotisation. Abonnez-vous, réabonnez-vous, abonnez vos amis, abonnez votre famille, enfin voilà.
Plus la nous quête, mais professionnelle.
Voilà, exactement. Un professionnel qui vient de vous parler. Donc, merci aux auditeurs d'être avec nous pour cette nouvelle chronique des Fous du Roi, la 45e, 46e, 47e, je ne sais plus trop. Bonsoir Anne-Laure, qui, vous allez m'assister en compagnie de Pierre-Emmanuel, qui lui est du côté des téléphones.
Et si on oui, devra... et on va se relayer. De...
Voilà, très pas. Bien. Donc, ça va, vous avez bien répété là, ces derniers 15 jours
Oui, 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 bien sûr.
C'est qu'on ne dit pas, mot pays où, on dit...
Oh, arrêtez, j'ai une amie de ma grand-mère qui m'a fait la réflexion deux jours après,
ah, bah,
j'étais,
voilà.
Mais absolument...
On dit pas Mopéou, on dit...
On est Mopou.
Mopou.
Mais
on,
je le savais en plus.
On dit pas Guépéou, on dit...
On KGB.
KGB, voilà, bravo monsieur l'abbé, c'est lui qui est vraiment le meilleur. Il n'y a pas de doute. Alors merci aussi à tous les amis qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ce soir, donc avec l'aimable complicité de l'abbé Christian-Philippe Chanu, curé de Soulé-Chartreux, qui va faire une espèce d'assistance exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle la star américaine, la vedette américaine dans cette émission. Parce que ce soir, bien, nous avons vraiment un programme assez varié. J'espère qu'il sera agréable pour nos auditeurs. Nous avons d'abord écouté Patrick Schmitt, qui est comédien, metteur en scène. Il va nous parler d'un spectacle qu'il a mis en scène et qu'il joue, qu'il interprète lui-même. C'est un sermon de Bossuet et c'est un spectacle tout à fait exceptionnel. Nous recevrons également le général Pierre Lefebvre, qui est un vieil habitué de ce studio et de mon émission en tout cas, qui va venir nous parler de la messe de fondation du Val-de-Grâce par Anne d'Autriche. Et puis nous aurons également Hugues Michel, qui est déjà venu d'ailleurs, je crois, peut-être dans une émission. Alors vous partagerez les micros tout à l'heure, n'ayez pas peur. Parce que lui, il y a plus de monde dans le studio que de micro disponible. Moi, j'ai le mien, je ne le lâche pas. Comprenez, c'est normal, c'est le chef. Qui va venir nous parler d'un rassemblement à la mémoire de Marie-Antoinette, donc le 16 octobre prochain. C'est intéressant, on va parler de tout ça. Et puis, nous recevons également Claude Jassir, qui est documentaliste au musée de la Légion d'honneur. Nous avons reçu, il n'y a pas très longtemps, je crois un mois, Madame Vissinger, qui était venue nous parler de l'exposition en cours. Et là, nous allons parler d'un salon du livre d'héraldique. Alors, pour faire nos petites illustrations musicales tout au long de cette soirée, ce soir, on a décidé de faire... On se montre tel qu'on est, on se cache pas. On va entendre des Domine Salvum Fac Regem ou Domine Fac Salvem Regio. Enfin, on peut, hein, dans tous les... Tout est possible. Des différents siècles. On va commencer par Henri Dumont, qui représente donc le grand siècle. On va commencer, par Jean Mouton, qui représente la Renaissance. On va entendre un extrait d'un Domine Fac Salvum Regem, qu'il a écrit... pour le sacre de François Ier en 1515, puis après on va écouter un Domine Salvum Fac Regem, qui lui est du cher Henri Dumont. Je crois que tous les catholiques connaissent à peu près, au moins à l'oreille, la messe royale de Dumont, n'est-ce pas ?
La royale 1.
La royale, n'est-ce pas, comme on dit ?
On la chantera sur les chartres la semaine prochaine.
Parfait, donc ça sera pour le XVIIe siècle, pas celui du XVIe ou du XVIe. Puis nous allons écouter également le Domine Salvum Fac Regem de la messe du sacre Louis XVI de François Giroux. Et puis enfin, nous terminerons par le Domine Salvum Fac Regem, extrait de la... très célèbre messe solennelle de Berlioz qu'on vient de redécouvrir, et comme elle a été bien sûr créée en 1825, et bien c'était obligatoire pour toutes les messes, il y avait cette pièce. Donc nous allons avoir un auteur du 19e, un auteur du 18e, un auteur du 17e et un auteur du 16e siècle. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, c'est une très belle bibliothèque. Alors on écoute tout de suite les à peu près 2 minutes de musique. C'est Jean Mouton, donc c'est un auteur qui, un compositeur qui est né en 1459 et qui est mort en 1522. Je dis ça parce que j'ai mes fiches. Et il s'agit du Domine Fac Salvum Regem qui a été composé pour le sacre de François Ier, lequel sacre s'est passé la même année que la bataille de Marignan, c'est-à-dire en
1515.
Bravo.
15.
Thank you.
Voilà, nous revoilà après ce très très joli morceau de Jean Mouton, donc un auteur à cheval, en quelque sorte, si l'on peut dire, entre le 15e et le 16e siècle, qui a composé ce morceau pour le Sacre de François Ier. Alors, premier invité de ce soir que je suis tout heureux de recevoir, il s'appelle Patrick Schmitt, et vous avez 36 ans, vous êtes comédien, metteur en scène, et je suis allé voir, en compagnie d'ailleurs de l'abbé Christian-Philippe Chanu, qui est une des raisons pour lesquelles je l'ai prié ce soir, mais il y en a bien d'autres aussi, notre amitié légendaire, enfin, c'est pas qui remonte déjà avant le Concile de Trente, on peut dire.
Ah oui, même celui de Latran.
Parce que nous sommes allés voir dimanche dernier un spectacle, la recommandation d'un autre ami qui s'appelle Gilles Latournerie, que les auditeurs connaissent un peu parce qu'il fait de temps en temps une émission avec Salsa Bertin sur Radio Courtoisie, le samedi. Et Patrick Schmitt a mis en scène un sermon de Bossuet, le sermon sur le mauvais riche. Alors, Patrick, j'aimerais d'abord que vous présentiez un petit peu aux auditeurs. Racontez-nous un petit peu votre carrière. Vous avez 36 ans, vous êtes encore un tout jeune homme par rapport à la moyenne d'âge des animateurs de cette station.
Parler de ma carrière, bon, j'ai monté un certain nombre de spectacles, j'ai joué dans d'autres, mais bon, j'ai plutôt envie de me centraliser sur Bossuet, si j'ose dire, parce que c'est un parcours un petit peu particulier. C'est vrai que c'est un spectacle, puisque je suis un comédien, je suis un homme de théâtre, mais un sermon de Bossuet n'est pas fait pour autre chose que la prédication. Et c'est vrai que j'ai été sensibilisé, d'une part parce qu'on parle beaucoup de Bossuet, mais qu'on n'a pas l'occasion de connaître toujours les œuvres, quelquefois quelques fragments d'oraisons funèbres, et les textes des sermons sont moins connus. Sermon sur le mauvais riche, encore moins que le sermon sur la mort. Alors, il fait partie de ce qu'on appelle la grande station du Louvre de 1662. Qu'est-ce qu'une station?
Parce que les gens vont croire que c'est la station Louvre, n'est-ce pas?
Je vais dire quand même ce que c'est. C'est simplement, c'était une série de prédications, 5, 6, disons 4 ou 5, faites par un même prédicateur pendant une période importante du calendrier liturgique, par exemple l'Avent ou le Carême, bien évidemment. Et là, il s'agit du Carême du Louvre de 1662, au moment où Bossuet a donc fait ses sermons devant Louis XIV et la cour, bien sûr.
Mais qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, particulièrement dans Bossuet? Je veux dire, à la fois comme comédien, peut-être, bien sûr, et aussi comme homme. Qu'est-ce qui vous a secoué dans Bossuet?
C'est vrai que c'est une rencontre. Pour moi, le théâtre est... J'ai toujours été passionné par le fait de faire du théâtre, parce que c'est pour moi une manière de connaître un peu mieux l'âme humaine. Dans le rapport que je peux avoir avec les acteurs, dans le rapport que je peux avoir avec les personnages, et puis aussi dans peut-être ma manière de vivre tous les jours. Alors, Bossuet, ça m'a parlé tout de suite, j'ai pas su pourquoi, je devais avoir 16 ans ou 17 ans, Sermon sur la mort. Déjà, le titre m'intéressait, et je crois qu'à ce moment-là, j'étais pas apte à recevoir cela. J'espère maintenant que j'ai fait un parcours un peu plus intérieur pour me permettre évidemment de faire ces travaux, mais je n'étais pas apte à 16 ans ou à 17 ans. Et puis c'est revenu dans ma tête, et puis j'ai eu envie d'aller plus loin, et je rencontre Bossuet. On a l'impression évidemment que c'est un monument de l'histoire et que c'est un grand monsieur vieux qui est en haut de sa chaire. Et Bossuet, quand il fait ses deux sermons, il a 36 ans. Et à 25 ans, il écrit ce qui sera pratiquement l'ossature ou tout l'engagement de sa vie, ses méditations sur la brièveté de la vie. Et on retrouve les grandes phrases de méditation dans le sermon sur la mort, et bien sûr certaines qui sont reprises dans l'oraison funèbre à Henriette d'Angleterre. Mais là, il traite d'un décès à un moment précis, alors que quand il parle du sermon sur la mort, c'est un magnifique sermon de doctrine en deux points extraordinaires.
Alors, je dois dire que nous avons vu avec l'abbé Chanu pas plus tard que dimanche dernier ce spectacle, et nous en sommes sortis enchantés. Enfin, en tout cas, c'était mon sentiment. Quel est le vôtre, monsieur l'abbé?
Moi, j'étais enthousiasmé. Parce que d'abord, c'est pas Bossuet qui prêche. Si c'est Bossuet qui parle, c'est d'abord pas un essai de reconstitution de chair du XVIIe siècle. On est transporté à l'intérieur du texte. Et ça, c'est la première chose qui m'a frappé et qui m'a touché, parce que je m'attendais, à vrai dire, à une reconstitution, une vague reconstitution, et je me disais, comment est-ce que ce maître va pouvoir faire dans une fauchère, dans un lieu si petit, etc. Et ma première surprise et bonne surprise était de voir que rien ne ressemblait à une chaire, qui a une économie de moyens qui va conforter la valeur du texte, la grandeur du texte, et que l'acteur porte un costume intemporel. Donc, c'est bien Bossuet qui parle, mais c'est Bossuet qui parle au-dessus des temps et des espaces. Et c'est vraiment ce qu'on attend d'un sermon. La manière dont le sermon est dit... Pardonnez-moi de dire ça devant vous, mais c'est assez époustouflant. On est saisi, et c'est une prédication, dans le sens où vous prêchez. Vous prêchez parce que ça fait partie de votre cœur, ça fait partie de vos tripes. Et on récite pas un texte, mais on est vraiment exhorté. Et puis ce sermon est magnifique. Vous savez que, ayant entendu ce sermon, Mademoiselle de la Vallière, qui était fort lié à Louis XIV à ce moment-là, de manière bien coupable, au-delà du 6e et du 9e commandement, a fait sa valise et est parti. Et que le roi est obligé de la faire rechercher dans un couvent pour la ramener à des occupations plus guillerettes. Mais toujours impressionné par ce serment et par ce qui s'en suivra, quelques années après, elle se fera réellement carmélite et... Comme par hasard, c'est le grand Bossuet qui fera son sermon d'entrée. Alors moi, j'ai été vraiment enthousiasmé par ce que j'ai vu et par ce que j'ai entendu, parce que je suis parti avec l'idée de voir un spectacle. Vous connaissez tous le bon esprit que j'ai et le sens à peine marqué de la critique. Donc j'étais parti avec ma mitrailleuse, prêt à faire toutes les critiques possibles et imaginables. Et j'ai été prêché, c'est-à-dire que j'ai été saisi, pas seulement par un texte, pas seulement par le talent de l'orateur, mais par quelqu'un de vivant qui me rappelait à quelque chose, que tous nous sommes en devoir d'entendre, quoi. Tout ça s'en va. Tout ce qui font vos affaires s'en vont. Eh ben vous, et alors qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est... Alors ça, je recommande à tout le monde, comme un exercice pieux, d'aller voir cette chose étonnante.
Ben vous avez là quand même la critique absolument dithyrambique. Mais, alors, la question que je me suis posée également, en regardant, avant d'aller à ce spectacle, en ayant vu ce spectacle, et puis en regardant ce spectacle, c'est... Bon, il y a effectivement dans la forme du sermon, notamment chez Bossuet, qui est un orateur chrétien comme beaucoup d'autres, il y a une forme dramatique. C'est-à-dire que le sermon, comme d'autres textes d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement des sermons, mais on en trouve quand même quelques-uns dans le XVIIe siècle, si on relit un peu Pascal, on va s'apercevoir qu'il y a une dimension dramatique dans le texte, qui est fait pour interpeller le lecteur ou interpeller l'auditeur. Alors, est-ce que précisément le sermon se prête au jeu dramatique? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, le jouer le moins dramatiquement possible?
Il y a plusieurs choses, et c'était intéressant de le, justement, là où on peut mélanger, je dirais subtilement, prédication et ce que j'appellerais la théâtralité, c'est que, au XVIIe siècle, il y a toujours eu cette ambiguïté, justement, entre le message à faire passer, qui était, à ce moment-là, la voie d'accès direct à la parole de Dieu, parce qu'on n'avait pas accès, avec la facilité d'aujourd'hui, aux textes écrits. On ne pouvait pas lire l'évangile comme ça. Il y avait un immense respect par rapport à cela. Tout le monde ne savait pas lire. Et en fait, l'accès à la parole de Dieu passait par la prédication. Et les sermons n'étaient pas quelque chose. On a tendance maintenant à vulgariser le mot et à dire sermon pour dire homélie. Mais un sermon n'était pas prêché au cours d'une messe. C'était une démarche à part et on venait pour entendre le sermon. Mais évidemment, ça a été, et même je dirais les prédicateurs ont fait leur autocritique, et la Furtière en a parlé, la Bruyère aussi, certains prédicateurs ambitieux se disaient, si je fais un sermon avec des effets de voix extraordinaires, des effets de manche et que je donne un spectacle, eh bien peut-être j'aurai une place plus importante. Et Bossuet, qui a suivi l'école de Saint-Vincent de Paul, qui défend une prédication issue du cœur, dit effectivement, le prédicateur n'est pas là pour se montrer, il est là pour être le relais, finalement, entre la parole de Dieu et celui qui doit l'entendre. Et il admettra dans un discours à l'Académie en 1671 l'éloquence comme servante de la vérité. Et je dirais que moi, en tant qu'homme de théâtre ou en tant qu'acteur, ce qui m'importe, quand on va parler peut-être d'une toute autre pièce, mais que quand on est confronté à une pièce contemporaine ou à un classique, peu importe, c'est de pouvoir dire aux acteurs qui travaillent avec moi, et moi-même je m'applique à cela, de dire nous ne sommes pas là pour nous montrer, pour montrer notre habileté ou pour montrer nos trucs. Nous sommes là pour, je dirais, présenter notre intimité au public sans défense et pour se mettre au service de l'action dramatique. Nous ne sommes pas là pour faire pour séduire avec de l'habileté. On est là pour un acte d'amour, pour donner authentiquement. Alors c'est une démarche où le théâtre, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans la rencontre d'un homme de chair et de sang face à un autre homme de chair et de sang, ça peut être ou une rencontre faussée, je dirais presque un peu violemment, ça peut être un acte d'amour ou un acte de prostitution. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors avant que j'oublie, évidemment, parce que j'aurais dû commencer par cela, c'est quand même dire où se donne ce spectacle et jusqu'à quand vous allez pouvoir le voir.
Gens sont derrière leur poste.
Voilà, là, radio, tout le monde est en téléphone. Alors je vous rappelle quand même que vous écoutez Radio Courtoisie. Vous pouvez bien sûr nous téléphoner pour poser vos questions ou envoyer vos messages au 46 51 00 85. Alors le spectacle donc du sermon sur le mauvais riche sermon de Jacques Bénigne Bossuet, créé, interprété par Patrick Schmitt, se joue, ça tombe bien d'ailleurs, au théâtre du Tambour Royal.
Il est magnifique, ce petit lieu, il est tout à fait à l'image de son nom.
C'est tout à fait un théâtre forain, c'est très très drôle. Alors c'est dans un quartier très 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 mélangé, mais assez sympathique dans le fond. C'est 94 rue du Faubourg du Temple. Les métros les plus proches, c'est Goncourt ou Belleville. Alors je vous donne le téléphone des réservations. Vous pouvez bien sûr téléphoner à partir de ce soir pour prendre des renseignements et réserver vos places. C'est à Paris donc le 48 06 72 34. Je redonne une fois le téléphone 48 06 72 34. Le spectacle est le sermon sur le mauvais riche de Patrick Schmitt au théâtre du Tambour Royal. Je crois vraiment que on recommande souvent, c'est-à-dire on a tous nos coups de cœur et moi j'en ai beaucoup.
Mais en plus, Daniel, il n'y a que 100 places.
C'est un petit théâtre, une centaine de places. Vraiment, on est tout prêt, on voit bien, il n'y a pas de problème.
Et ça n'est que du 20 septembre au 25 novembre.
Alors voilà, dernière représentation le 25 novembre. Alors c'est tous les jours, bien sûr, ce sont des soirées à 21h et là, Patrick Schmitt va être obligé de nous quitter bientôt pour courir au théâtre. Il y a une matinée le dimanche à 17h et bien sûr il est quand même un peu relâche le lundi parce qu'il faut quand même de temps en temps qu'on se recrée au sens propre et au sens figuré. Alors moi j'ai eu un coup de cœur pour ce spectacle, comme il m'arrive d'avoir eu un coup de cœur l'année dernière pour le spectacle Marie-Antoinette et ses amis, et là je dois dire que c'est quelque chose d'extrêmement poignant, pas au sens c'est poignant au sens du caractère dramatique du message que le comédien fait passer. Parce que c'est
comme disait tout à l'heure l'abbé Chalus, c'est intemporel. Parce que ces vérités sont des vérités de tout temps, sont des vérités éternelles, et cette interpellation que l'on prend, magnifiquement d'ailleurs, grâce au talent du comédien, sur en fin de compte nos fins dernières, pour employer cette grande expression, est quelque chose d'extrêmement troublant. Donc je recommande évidemment avec beaucoup d'intérêt ce spectacle. C'est le sermon sur le mauvais riche, donc le sermon est de Jacques Bénin Bossuet, mise en scène conçue, interprétée par Patrick Schmitt, au théâtre du Tambour Royal, dont le téléphone est le 48 06 72 34. Patrick, vous voulez rajouter un petit mot?
Mais je suis content d'abord de pouvoir effectivement transmettre ce message, et c'est vrai qu'on a beaucoup de satisfaction parce que le public reste pour parler avec moi après le parcours, si j'ose dire. J'ai envie effectivement qu'on entende ce message, et d'autant plus envie qu'on l'entende maintenant à un moment où on a souvent tendance à emmener un petit peu le monde dans la superficialité. Là, c'est un peu l'inverse que j'ai voulu faire.
Alors, on va vraiment au cœur des affaires. Alors, c'est un spectacle qui dure à peu près une heure. C'est le temps d'un sermon, d'un vrai sermon.
Saint-Vincent de Paul enseignait à l'école du mardi, où Bossuet était un élève assidu. Messieurs, ne prêchez pas longtemps, trois quarts d'heure, ça suffit.
Trois quarts d'heure, c'est déjà pas mal. Mais là, bon, on a une heure, et vraiment, c'est tout à fait admirable. Il y avait d'ailleurs dimanche, au premier rang, un monsieur assez âgé, qui était absolument enthousiasmé du jeu, du sermon, et qui applaudissait. Alors, je sais pas, c'est très liturgique.
Un peu n'importe quand, mais
ils applaudissaient tellement. Et c'est vrai, on a envie d'applaudir
avec
tellement
un tel enthousiasme.
Oui, c'était tout à fait, tout à fait touchant.
C'est tout à fait touchant, parce que, et en même temps, il s'est tout à fait assumé dans ce qu'il a fait, parce que c'est vrai, il y a trois points dans ce sermon, et le sermon est une structure rigide, donc effectivement, on détermine avant les points, il y a le texte, l'exhorte, les points, et puis on a péroraison, et donc à chaque fin de point, ce monsieur qui applaudissait, mais il s'est bien rendu compte qu'il était tout seul, mais il a assumé cette chose-là, et c'est pas du tout désagréable.
Je pense que c'est gratifiant même pour un comédien, quand même.
Oui.
De sentir une salle qui vibre.
Oui, c'est tout à fait, c'est de sentir la salle à l'écoute, c'est tout à fait bien. Et je suis stupéfait quelquefois parce qu'il y a des gens qui me demandent à la fin, ils me disent, mais c'est intéressant, c'est une adaptation alors de Bossuet. Je dis non, c'est le texte de Bossuet.
Non, il n'y a pas de tricherie en plus, je veux dire.
Il y a toutes les citations latines,
c'est absolument magnifique. Donc je rappelle le sermon sur le mauvais riche, le texte, j'allais dire, n'est-ce pas, est de Jacques Bénin Bossuet, comme on faisait, vous savez, au théâtre ce soir, autrefois. La conception, la mise en scène, en quelque sorte, et l'interprétation sont de Patrick Schmitt, et je veux dire que vous êtes tout à fait excellent dans ce rôle. C'est joué au théâtre du Tambour Royal, 94 rue du Faubourg du Temple, Paris 11e, réservation donc 48 06 72 34 à Paris. Bien sûr, nos auditeurs de province doivent faire, je pense, le 16 et le 1 pour appeler. Mmh. Et c'est joué du 20 septembre jusqu'au 25 novembre. Bon, on a un petit peu le temps, mais il faut quand même pas trop traîner.
Non, puis Daniel, hein. Vous allez me trouver très matérialiste, mais il faut aussi donner les prix des places, qui est très très modique.
Ah oui, alors les places, c'est 80 francs.
Et
puis alors,
60 francs de...
Les réductions, je pense que tout le monde...
Ça a été une démarche aussi volontaire, le prix des places comme cela, parce qu'il est évident que ce ne sont pas des prix communs au théâtre, mais c'était une démarche volontaire, je ne l'explique pas. Ça va de soi.
Bon, enfin, c'est pas ça qui va vous rendre millionnaire, j'ai l'impression. Hein.
Non, mais non. C'était pas nécessairement.
C'était peut-être pas l'objet.
Je dirais
pas
presque
de la
même que ça me ferait drôlement culpabiliser.
Bon. Et vous accepteriez d'aller dire ce sermon dans des églises? Vous l'avez déjà fait, d'ailleurs.
Je l'ai fait,
crois.
Parce que quand on l'a créé, je l'ai fait donc avec le sermon sur la mort, et j'ai eu l'occasion de le faire dans la chaire de Saint-Eustache, puis à Saint-Séverin, à Saint-Gervais, à la Trinité. Mais je suis tout à fait prêt. J'ai envie de faire le parcours Dijon, Metz, Langres et Meaux, bien sûr, mais je suis en train de m'en occuper. J'aimerais faire quelques belles cathédrales de France. Et puis,
des petites églises paroissiales bien chez nous.
Tout à fait.
Peut-être pas mot, mais même dans la banlieue parisienne, par exemple.
On a déjà traité.
Bon, vous avez déjà traité. C'est très bien. Alors, je vois que Radio Courtoisie sert aussi.
On l'a joué à Rueil-Malmaison aussi. Et on va, bien sûr.
Très bien. Enfin, vous me le direz quand ce sera sous les chartreux. Comme ça, on fera une petite annonce. Ça sera l'occasion de reparler un peu de ce spectacle. On tâchera de le rappeler au fur et à mesure de nos quinzaines qui passent. En tout cas, donc, je vous redis, Sermon sur le mauvais riche, un texte magnifique et magnifiquement interprété. Théâtre du Tambour Royal, du 20 septembre au 25 novembre prochain, les réservations au 48 06 72 34, pour rester dans l'ambiance grand siècle, puisque nous y sommes avec
Bossuet. Daniel, parce que j'ai une auditrice, qui me dit cette émission est vraiment un cadeau royal. Bossuet et l'abbé Chanu dans la même soirée. Vous avez une auditrice, une admiratrice qui est...
Si l'auditrice avait dit l'abbé Chanu et Bossuet dans la même soirée, ça aurait été quand même mieux. Alors donc, pour rester dans cette tonalité...
L'aigle de sous les chartreux.
Voilà, l'aigle de sous les chartreux. Versus l'aigle de Meaux. Donc, pour rester dans cette ambiance de bonne humeur, d'ailleurs, mais aussi grand siècle, puisque nous sortons de Bossuet et nous allons nous diriger vers le Val-de-Grâce et Anne d'Autriche, eh bien, nous allons donc écouter le second dominé Salvum Facre et Gem de la soirée. Il s'agit bien sûr de celui de Dumont. Il date, enfin, ce chant sacré date de 1662. Voilà, après ce très beau morceau d'Henri Dumont, grand compositeur de l'époque de Louis XIV et aussi d'Anne d'Autriche, qui nous ramène, cher général Lefebvre, à l'association que vous avez créée, voici déjà quelques années, qui s'appelle le Mémorial de France au Val-de-Grâce. Alors peut-être faut-il rappeler pour les auditeurs qui viennent de naître, parce qu'il nous en est comme ça tous les jours, ce qu'est le Mémorial de France au Val-de-Grâce.
Oui, ce mémorial, nous l'avons créé il y a une demi-douzaine d'années. Pour une raison, c'est que on s'était interrogé, quand on voyait ce magnifique bâtiment, ce monument extraordinaire qu'est cette abbaye, on ne connaît pas son histoire. L'histoire ancienne de l'abbaye est partiellement connue parce que les archives ont disparu, elles ont brûlé, et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On connaît très bien, par contre, l'histoire d'abbayes qui ont disparu. Je pense au Carmel, vous parliez du Carmel du Faubourg Saint-Jacques tout à l'heure. Je pense aussi à Port-Royal, où il reste presque rien. On connaît tout de ces abbayes, et du Val-de-Grâce, on ne connaît rien. Alors on s'est dit qu'en faisant un mémorial, on essaierait d'essayer de faire revivre, par des recherches, par des études, l'histoire de l'abbaye royale ancienne, qui avait été fondée donc par Anne d'Autriche. Et ça a été donc le but de notre mémorial. Et une des premières actions que nous avons voulu faire, c'était de relever le vœu de la reine. Parce que tout à l'heure, vous me parliez de la messe de fondation qui doit avoir lieu. Je dis tout de suite la date. C'est le dimanche 23 octobre à 10h30 en l'église du Val-de-Grâce.
Et cette année, il y a le célébrant est une personnalité, si je puis dire.
Oui, oui. Alors cette église qui s'appelle Notre-Dame du Val-de-Grâce, il faut bien le dire, il faut retrouver les terminologies initiales. Alors pourquoi cette messe de fondation? Parce que Anne d'Autriche, dans son testament, peu de temps avant sa mort, vous savez qu'elle était morte d'un cancer du sein après une agonie affreuse, elle était morte au Louvre. le 21 janvier 1666, peu de temps avant, alors qu'elle était à Saint-Cloud chez monsieur, elle avait dicté son testament à Tubeuf, qui était son intendant, l'intendant de ses bâtiments, en présence de Letellier et de Colbert. Et ce document, ce testament qui est long, qui a été contresigné par Louis XIV, qui pleurait en le signant, ce document parle quatre fois du Val-de-Grâce, ce qui montre l'amour qu'avait Anne d'Autriche pour ce Val-de-Grâce. Et elle demande d'abord, première chose, qu'après, qu'en même temps que son corps, quand elle serait morte, soit porté à Saint-Denis près du feu roi son mari, on prélève son cœur par une simple incision, elle ne veut pas qu'il y ait d'autopsie, une simple incision, et que son cœur soit porté à la garde des bénédictines du Val-de-Grâce. Ça, c'est son premier vœu. Elle demande ensuite que ses reliquaires du Louvre soient transportés à l'abbaye du Val-de-Grâce. Elle demande encore que son fils Louis XIV continue à terminer la construction du Val-de-Grâce. Et puis, la quatrième fois où elle parle du Val-de-Grâce, elle dit « Je vais laisser une somme d'argent pour que on fasse toujours pour moi des messes pour le repos de mon âme. » Et alors, c'est ce vœu que nous avons voulu relever. Et depuis 9 ans, maintenant, nous faisons une messe tous les ans. Donc, messe de fondation, c'est une
messe
exactement,
de fondation.
Et étymologiquement, oui, c'est une messe de fondation. Et nous la faisons d'ordinaire à la fin septembre. On fait correspondre avec la date de naissance de la reine. Elle est née en 21 septembre. Mais 2 ans de suite, et cette année en particulier, on a été gênés parce que nous avons, en même temps, il y a une messe de fondation qui est aux Invalides, qui se fait aussi traditionnellement. Elle est décalée elle-même. Oui. Normalement, elle devrait se faire pour la Saint-Louis au mois d'août, oui, mais elle est décalée. Alors, pour ne pas qu'il y ait de redondance, pour que les mêmes fidèles puissent aller à ces deux messes, alors nous avons décalé et notre messe sera donc le 23 octobre.
Donc, je rappelle, le dimanche 23 octobre à 10h30, la messe serait rehaussée, je crois, la présence du chœur grégorien de
d'abord,
Paris.
D'abord, elle est présidée par Mgr Michel Dubost, qui est l'évêque aux armées, qui nous fait ce grand honneur. C'est la première fois que Mgr vient. La messe sera concélébrée par mon ami Mgr Alain Bouillon, qui est le vicaire général aux armées. Et puis, nous avons un nouvel aumônier au Val-de-Grâce, qui est un homme merveilleux, qui est un franciscain, le père Girard, qui dira la messe aussi. Alors, cette messe, pardonnez-moi, sera, comme vous le dites, rehaussée, comme chaque année, d'ailleurs chantée par le chœur grégorien de Paris, dont on ne doit pas redire tout le talent, le monde connaît.
C'est un groupe exceptionnel.
C'est un groupe exceptionnel, ils chantent merveilleusement. Ils ont remis à l'honneur le chœur grégorien, qui n'était peut-être pas perdu, mais enfin, ils l'ont fait revivre. Ils travaillent beaucoup avec Solem, avec Foncombeau, et sous la direction de notre ami Jean-Marie Vigne, Louis-Marie Vigne. Voilà, alors la messe sera très belle.
Je crois qu'il faut, il faut inciter nos auditeurs à s'y rendre, ne serait-ce que pour cette occasion,
oui,
ne serait-ce que pour... parce que peut-être que les Parisiens sont trop riches, ils vont rarement dans les beaux endroits. Et il faut qu'il y ait des cousins de province qui passent pour qu'enfin ils découvrent Paris.
Oui.
Alors, il faut voir ce que c'est que l'église du Val-de-Grâce. C'est une pure merveille.
Je ne sais rien de la prédication de Mgr Dubost, mais je peux vous dire que le Val-de-Grâce, c'est à l'architecture ce que les sermons de Bossuet...
Voilà, mais sont d'ailleurs, Bossuet venait prêcher au Val-de-Grâce, comme Bourdaloue après lui. Alors, il y a toujours, c'est une grande affluence, il y a beaucoup de hautes personnalités, toute la haute hiérarchie civile, militaire, des ambassadeurs, des diplomates. Je tiens beaucoup à ce que nous ayons la famille d'Anne d'Autriche, et nous avons nos princes et nos princesses qui viennent, et c'est toujours une messe de grand recueillement, c'est un grand événement. L'an dernier, l'homélie avait été dite par notre éminent ami du mémorial, qui fait partie du mémorial, qui est le cher père Carré, le prestigieux prédicateur de Notre-Dame, qui nous avait fait une homélie magnifique. Magnifique.
Qui prêchera cette année? Vous en avez l'idée?
C'est Mgr Dubost.
Mgr Dubost,
je pense, oui, qui parle très très bien, remarquablement. Alors, à la fin de cette cérémonie, je voudrais le dire quand même, je remettrai au nom du mémorial un tableau au directeur du Val-de-Grâce, qui est le médecin général inspecteur Bazot, C'est un tableau pour l'Église qui sera repris au compte du musée du Val-de-Grâce, dont le conservateur est un monsieur très éminent, le médecin-chef Ferrandis. Et ce tableau, nous avons eu une chance extraordinaire de nous le procurer. Il représente une abbesse du Val-de-Grâce qui était Mère Marie de Bourges. C'est important parce que nous n'avons aucune iconographie de nos anciennes abbesses, aucun tableau, ça n'existe pas. Il y a deux ou trois gravures de la mère Marguerite d'Arbouse ou d'une autre abbesse, mais tout cela ressemble sans doute très peu. Donc là, c'est un magnifique tableau qui est dû à un peintre en renom, il est au Bénézite, qui s'appelait Jacques Linard. Jacques Linard, de l'école française du début du XVIIe siècle, né en 1600 sans doute et mort en 1645. Et sur ce tableau, qui est assez grand, qui fait 1,20 m sur 90 cm à peu près, on voit l'abbesse, mais au moment de son mariage mystique. Si bien qu'elle n'est pas encore habillée en religieuse, elle a une grande robe d'apparat en écarlate, elle est très belle, la teinte saine d'une couronne de roses, et elle brandit un crucifix triomphalement, vraiment, c'est étonnant. Elle est très belle, elle a un petit sourire malin, elle est fardée, on n'a pas l'impression que c'est une abbesse. Mais c'était comme cela, et quand on voit le destin qui est réservé, parce que les bénédictines du Val-de-Grâce étaient cloîtrées, elles vivaient très pauvrement. Si l'abbaye elle-même était très riche, si l'église était très belle, très, très décorée, les religieuses vivaient très pauvrement, avec la règle de Saint-Benoît.
Alors, vous aviez déjà offert il y a 3 ou 4 ans un autre tableau, qui est un tableau d'un autre riche aussi.
Un tableau qui avait été aussi vendu dans c'était une vente aux enchères à Rodez. On avait su qu'il y avait un tableau d'Anne d'Autriche qui sortait de l'atelier des frères Beaubrun. Et ce tableau, vous pourrez le revoir, il a été encadré par le directeur de l'école. Il se trouve dans l'oratoire de la reine. Mmh. Elle est très belle, la reine. C'est au moment, sans doute, où son fils a posé la première pierre du Val-de-Grâce, donc 1645, voyez-vous.
Alors à ce sujet, première pierre, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare pour l'année prochaine, puisque 1645, 1995, ça nous fait 350 ans.
Quelque chose comme ça, oui.
Alors, en ce moment, c'est l'époque des commémorations, on commémore tout. Hier, j'étais à l'Académie de médecine, on commémorait.
Alors
il y a quand même un grand événement, oui, le 1er avril prochain, et ça il faut qu'on prenne rendez-vous, qu'on prenne date. Le 1er avril 1645, Louis XIV, qui allait avoir 7 ans, posait la première pierre de l'église. Car auparavant, les religieuses qui étaient arrivées au faubourg Saint-Jacques, dans le Petit Bourbon, en 1621, vivaient dans un petit couvent d'appoint, avec une petite église. Mais après le vœu de la reine, vous savez, quand elle avait été pendant très longtemps, pendant presque 23 ans sans enfant, elle avait essayé toutes les ressources de la médecine, des cures thermales, des devins, tout, elle n'avait pas pu avoir d'enfant, elle s'était adressée au ciel. Mon Dieu, donnez-moi un enfant et je vous élèverai un temple magnifique. Ce sont ces termes. Et quand elle a été enceinte du petit Louis XIV, qui est né en 1638, alors à ce moment-là, elle a chargé François Mansart d'élever ce temple superbe. Mais il a fallu encore attendre que la reine devint régente à la mort de Louis XIII, en 1643. Alors là, elle possédait des subsides, elle avait tout pouvoir. Les travaux ont pu commencer et Louis XIV a poser la première pierre. Alors là, ce sera un événement considérable. Et nous pensons faire ce que nous avons fait au mois de novembre dernier. Vous vous souvenez, Père Chanu, vous étiez venu, vous aviez parlé, vous aussi, Daniel Amiche, pour le 350e anniversaire de la mort de Louis XIII, nous avions fait deux grandes journées avec l'Institut de la Maison de Bourbon, avec le duc de Beaufremont, et nous avions eu de très prestigieux orateurs. Monsieur Jean Foyer était venu présider une séance, il y avait Jean-Pierre Bablon qui avait parlé, enfin, c'était très beau. Alors nous voulons faire une journée scientifique sur l'époque de la construction du Val-de-Grâce. Alors là, c'est sûrement un événement qui sera important. Il y en aura un autre qu'on voudrait faire, ce sera pour le 300e anniversaire de la mort de Mignard, car vous savez que nous avons au Val-de-Grâce la plus grande fresque
superbe.
De Mignard qui a été restaurée entre 82 et 87. Il a fallu 5 ans pour la restaurer, qui est une merveille. Alors là, on tâchera de faire aussi quelque chose. Voilà.
Il reste quand même à donner l'adresse de votre association, donc le Mémorial de France au Val-de-Grâce, dont vous venez d'entendre le président, le général Pierre Lefebvre, se trouve 5 rue des Bernardins.
6.
6 rue des Bernardins.
2 fois 3. Rue
alors, 2 fois 3, 6 rue des Bernardins, Paris 5e. Là, je ne me trompe pas de code postal, 75005. Je répète. Donc, le Mémorial de France au Val-de-Grâce se trouve au 6 rue des Bernardins, Paris 5e. Il vous invite, bien sûr, à venir voir cette magnifique église, l'église Notre-Dame, mais également à vous rendre le dimanche 23 octobre prochain à 10h30 à la grand-messe, la messe donc de fondation qui sera célébrée aux intentions de la fondatrice, c'est-à-dire d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Donc à dimanche 23 octobre 10h30, messe qui sera célébrée par Monseigneur Dubost, qui est l'évêque aux armées, puisque maintenant c'est un diocèse complètement, n'est-ce pas?
Si vous me permettez 30 secondes, pour dire que les visites du Val-de-Grâce, en ce moment, l'actualité, les regards sont sur ce Val-de-Grâce, car c'est superbe, la restauration, qui n'est pas tout à fait finie. Il y a encore des travaux, il y aura les jardins à faire, mais c'est magnifique. Et les visites sont extrêmement nombreuses. Pour les journées du patrimoine, il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, on a compté 12 000 entrants en 2 jours. C'est effarant. Alors, les personnes qui veulent visiter, on n'entre pas comme ça. Il faut qu'elles demandent au cabinet du directeur de l'école. Le directeur, c'est le médecin général inspecteur Bazot, qui est très accueillant. Mais il faut demander. Là, il faut demander à son secrétariat pour les visites de groupe en particulier. Ou alors, on peut me demander aussi, puisque le général Bazot est un homme délicieux qui aime beaucoup notre mémorial, qui fait partie du mémorial, qui nous donne toute facilité. Alors, pour certains groupes, si on veut, on peut s'adresser à moi, l'adresse que vous avez donnée.
Tout à fait, que je redonne d'ailleurs, comme ça, parce que les auditeurs, là, quand j'ai donné l'adresse, ne trouvaient pas le crayon, l'autre ne trouvait pas le bloc. Alors, on le redonne encore une fois. C'est le Mémorial de France au Val-de-Grâce. Au 6, 2 x 3, rue des Bernardins, Paris 5e, et donc cette toute remarquable association est présidée depuis sa fondation par le médecin général inspecteur Pierre Lefebvre, que je remercie infiniment d'être venu nous parler ce soir du Val-de-Grâce, qu'il aime tant et auquel son nom est désormais attaché, parce que Dieu sait si vous êtes un homme utile pour bien faire connaître le Val-de-Grâce. Et donc, on invite nos auditeurs à se rendre le dimanche 23 octobre à 10h30 à la grand-messe de fondation du Val-de-Grâce. Merci mon général, et comme vous le savez, ce n'est que depuis du 13 d'ailleurs que les Domine Salvum Fac Regem sont quasiment obligatoires à l'issue des messes. Avant, il y en avait, mais c'était pour les sacres, pour certaines occasions. Mais à partir de Louis XIII, Louis XIII nous ramène aussi au Val-de-Grâce, hein, d'une certaine manière. Alors nous allons écouter cette fois-ci un lointain descendant de Louis XIII, pas si lointain, mais quand même relativement lointain, puisqu'il s'agit du Domine Salvum Fac Regem, extrait de la messe du sacre de Louis XVI, qui s'est déroulée en... Je demande à Pierre-Emmanuel qui vient de nous rejoindre là dans le studio.
76.
Pas loin, 1775.
75.
Mais c'est bien quand même. C'est bien, non, c'est très bien.
Mais alors c'est bien sûr. Je reverrai mon histoire.
C'est François Giroux qui est né le...
1738.
Vous voulez que je vous prête mes lunettes? 1738, voilà. Donc c'est très très court et c'est joli, ça ponctue donc cette messe du sac qui nous rappelle, qui nous ramène à des époques plus souriantes de notre histoire.
nous avons reçu quelques messages d'auditeurs nous demandant l'adresse exacte du Val-de-Grâce. Effectivement, bon, le Val-de-Grâce se trouve, parce qu'il faut rentrer bien sûr du côté de l'église et pas du côté de l'hôpital d'instruction militaire. C'est donc place Alphonse Laveran, Paris 5e, et le métro le plus proche, c'est Port-Royal. Voilà, donc nous vous convions à aller vous recueillir dans cette magnifique église et puis à assister le 23 octobre à 10h30 à la messe de fondation qui sera célébrée. Alors je salue un autre invité présent qui trépigne un peu parce qu'il a d'autres occupations ce soir, je sais très bien, mais enfin il s'est quand même invité très tard, il faut reconnaître, n'est-ce pas, mon cher Michel Hugues Michel, qui vient nous parler du rassemblement qui va s'effectuer en mémoire de Marie-Antoinette le dimanche 16 octobre prochain, place de la Concorde. Alors, pourquoi ce rassemblement ?
Alors oui, encore une commémoration, me diriez-vous. Oui, et tant mieux, parce que la France a besoin de commémorer quand elle ne sait pas où elle se trouve, quand elle a besoin de retrouver ses marques. Donc, encore une commémoration, et tant mieux. Et là, c'est pour Marie-Antoinette, je pense que c'est vraiment important. Ça dépasse Michel et Michel, ça dépasse Daniel Amiche, ça dépasse toutes les personnalités en particulier. Ça rassemble toutes nos familles de pensée, celles qui sont représentées en particulier à Radio Courtoisie. C'est l'occasion, c'est ces moments-là qui font que nos familles de pensée peuvent se retrouver.
Donc, vous voulez reproduire un peu cette année, en octobre, ce qui avait été tenté, et relativement bien réussi d'ailleurs, pour Louis XVI, puisque le 21 janvier, il y a eu le 21 janvier 93, il y a eu énormément de monde à la place de Concorde, elle était absolument noire de monde. Bon. Et l'année suivante, effectivement, il y a eu un nouvel essai qui s'est bien passé, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues effectivement se recueillir quelques instants, et alors vous voulez faire à peu près la même chose, puisqu'il y a eu aussi un 16 octobre 93 pour la reine et vous voulez faire un 16 octobre cette année.
L'année dernière, donc je remercie d'ailleurs Radio Courtoisie parce que j'avais été convié et ça avait été un succès, donc puisque d'ailleurs beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie s'étaient retrouvés dans le cortège Marie-Antoinette et ça c'était important.
Là il n'y a pas de cortège cette année, c'est uniquement...
Il n'y a pas de cortège parce que bon, c'est vrai que le cortège c'était pour le bicentenaire, c'était effectivement pour la préfecture, c'était en sens interdit sur la rue Saint-Honoré. Donc il y avait pas mal de contraintes et j'avais effectivement poussé, disons, les limites en disant que c'était un bicentenaire, donc c'était vraiment important.
Il n'y avait pas de sens interdit le jour où la reine a fait le parcours en charrette, je crois. Hein.
Oui, non, il semble non, tout à fait. C'est donc effectivement, là c'est le bicentenaire, il fallait insister là-dessus. Bon, pour cette année, un rassemblement digne, à la manière de Louis XVI, est convenable et je pense effectivement doit rassembler toutes nos familles de pensée, d'esprit qui s'expriment pour l'avenir de la France. Alors effectivement, c'est une commémoration, mais c'est aussi une façon d'institutionnaliser des dates pour nous, ceux qui nous rassemblons, disons, autour de cette émission FDR, les fous du roi.
C'est vous appelez ça quand les FDR, vous ?
Les FDR.
Ah, je savais pas qu'il y avait ce... Alors écoutez, je découvre une chose tout à fait admirable. Alors maintenant, il y a des... Ah, il y a les FDR.
Oui, les FDR.
Bah, je savais pas du tout ça. Non, mais moi j'aime pas trop les numériques. Mais c'est drôle. Bon, d'accord, acceptons.
Les fous du roi. D'ailleurs, les fous du roi. La première fois que j'ai aperçu ces fous du roi, c'était en 89 dans le journal du dimanche. Les fous du roi ont frappé.
Ah oui, mais ça n'avait rien à voir avec moi, je pense.
C'est vrai, mais
c'est venu plus tard, quand même, l'émission est venue plus tard. Oui. Oui, mais c'est sympathique, c'est une image pour montrer que nous sommes un peu...
Absolument, qu'on est imaginatif et qu'on n'est pas là pour, à la fois pour commémorer, mais pour aller de l'avant, aller de l'avenir. Et donc le dimanche, ce dimanche 16 octobre...
Alors c'est pas ce dimanche, c'est dimanche
en 8, tout à fait. Si vous sortez donc de la messe ou si vous avez effectivement un moment à passer, donc entre 11h et 14h, donc il y aura des gens pour vous accueillir, pour que vous puissiez déposer une gerbe. À midi, bon, c'est l'heure de l'exécution, disons, du martyr de Marie-Antoinette. Donc il y aura le rassemblement, avec un petit discours, disons, commémoratif, certes. Ça sera tout simplement l'occasion donc de se retrouver.
Alors c'est une chose organisée par quelqu'un en particulier ? Alors, association, oui, ou c'est une chose...
Bon, moi, je suis relativement marqué, puisque je suis président de la Fédération Île-de-France de la Restauration Nationale. Mais bon, je participe avec d'autres personnes, d'autres tendances. Et Marie-Antoinette, ce n'est pas, je dirais, ça n'appartient à aucun appareil.
C'est-à-dire, si je viens, je ne jetterai pas des cailloux, la restauration
nationale. Au contraire, non, justement. Donc, d'ailleurs, tous ceux qui veulent participer à la coordination, faire que ça se passe pour le mieux possible, bon, bah, peuvent laisser un message à Radio Courtoisie. Là, on programme des réunions de coordination, donc tous ceux qui veulent faire quelque chose de plus sont conviés. Donc.
D'accord. Est-ce qu'il y a une adresse particulière, si les gens, parce que Radio Courtoisie ne peut pas servir de secrétariat pour tout ça, est-ce qu'il
faut donner comme une adresse particulière? Alors, je peux donner mon adresse,
éventuellement. Eh ben, on la donne, c'est celle qui figure sur mon papier ici.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc c'est au 4 rue Caillot, c'est A-I-2-L-A-U-X.
Voilà.
C'était qui, ça, Caillot? C'était pas un...
C'est la veuve, il y a eu un assassinat audio.
Oui, c'est ça. Alors, Caillot, 4 rue Caillot, C-A-I-2-L-A-U-X, 75-03 Paris. Donc, Michel Hugues Michel, voilà. Voilà, ou Restauration Nationale, ou...
Michel Hugues Michel, puisque là, j'ai pas mis Restauration
d'accord,
Nationale
d'accord, sur la bâtonnette, donc il y aurait des problèmes. Donc, vous pouvez bien sûr écrire, et puis surtout, vous pouvez venir, parce que c'est une chose tout à fait licite et recommandable, de venir le dimanche 16 octobre, qui est le jour anniversaire de l'assassinat de Marie-Antoinette, place de la Concorde, de 10h à peu près,
entre 11h et 14h,
vous pouvez venir mettre une fleur à l'emplacement. Là, on est à peu près sûr, d'ailleurs, de l'emplacement de l'échafaud de l'arrêt. On était un peu moins sûr de la place de l'échafaud de
Roi. Il y a eu des modifications, disons, de
voirie. Mais pour l'arrêt, on est tout à fait sûr, et donc vous pourrez déposer une fleur et surtout avoir une prière intérieure pour cette infortunée... Reine de France.
Tout à fait. Donc, je profite également de mon passage pour annoncer, disons, là, c'est parce, en tant que président de fédération de la Restauration nationale, puisque la veille, donc, la Restauration nationale organise un colloque.
Donc, c'est le samedi 15.
Samedi 15. Donc, si vous avez effectivement des amis qui viennent de province, donc, peuvent faire effectivement la fin de semaine, en fait, oui. Samedi, disons, qui portera sur le thème « Un président ou le roi ?» Donc, ça sera un thème d'actualité. Donc, est-ce que la monarchie est-elle d'avenir, en fait, par rapport aux problèmes institutionnels de la France qu'on connaît aujourd'hui ? Donc, il y aura des personnalités illustres que vous connaissez, donc Vladimir Volkov, Philippe de Saint-Robert, Gilbert Pérol, Pierre Cugeot...
Ça a lieu où, ça, exactement,
alors,
votre colloque?
Ça a lieu à l'hôtel Diéna, métro Diéna, 9 bis avenue Diéna.
Bon, et pour les renseignements, il y a un téléphone, il y a quelque chose où...
Alors, c'est le 40 39 92 06.
Alors, pour en savoir plus sur ce colloque de la Restauration nationale sur le thème
Un président ou le roi,
alors vous téléphonez à Paris, bien sûr, au 40 39 92 06. C'est un colloque qui se tiendra le samedi 15 octobre. On peut même demander aux provinciaux de rester toute la semaine. Comme ça, le dimanche suivant, ils peuvent aller au Val-de-Grâce assister à la messe de fondation d'Anne d'Autriche à 10h30. Et la semaine, et ils peuvent aller voir le sermon sur Mauvais-Riche, par exemple. Et puis, je crois que s'ils restent un peu, ils vont aussi pouvoir aller au salon de l'héraldique qui se tient au musée de la Légendeur et dont on va parler, bien sûr, tout de suite. Encore un petit mot, Michel?
Donc, pour inviter à mobiliser pour dimanche.
Alors, le dimanche 16 octobre, place de la Concorde, de 11h à 14h, les Français qui ont de la mémoire, les Français de tradition, commémoreront donc la mort de Marie-Antoinette. Vous pouvez bien sûr vous y rendre. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler sur les ondes de Radio Courtoisie. Malheureusement, pas sur Dans les Fous du Roi, puisque on ne me subit qu'une fois tous les 15 jours.
On fera le bilan.
On fera le bilan, voilà, on fera un petit bilan, on ira d'abord voir, et puis on ira se recueillir aussi, et puis on fera un petit peu le bilan. Michel, merci. Donc, pour toute information particulière, et sur ce rassemblement, et sur le colloque du samedi 15 qui le précédera, vous appelez bien sûr à Paris le 40 39 92 06, 40 39 92 06.
Merci
beaucoup, je vous en prie. Alors, nous allons écouter un des tout derniers Domine Salvum Fac Regem, puisque la messe est de 1825, et à partir de 1830, vous savez, pas vous faire de peine à vous de la Restauration nationale,
mais enfin,
il n'y en a plus.
Louis-Philippe est illégitime pour la Restauration nationale.
Écoutez, je suis tout à fait heureux de l'entendre, puisque c'est pas moi qui le dis, en plus, comme ça, je ne me ferai pas taper sur les doigts. Donc, 1825, alors c'est une chose tout à fait exceptionnelle, puisque c'est d'Hector Berlioz, c'est cette fameuse messe solennelle qu'on avait cru perdue et qu'on a retrouvée en 1994. Elle a eu deux interprétations en France en 1825 et 1827. Et puis pour le premier enregistrement date de 1993. C'est celui-là que nous allons écouter. C'est un disque Philippe. Bien sûr, nous n'écoutons que le Domine Salvum Fac Regem.
Retrouver tout Berlioz dans ses accents et j'ai trouvé que c'était intéressant de passer cette symphonie miraculeusement, cette messe miraculeusement retrouvée l'an passé, surtout parce, enfin, notamment parce qu'elle comporte ce morceau obligatoire à la fin de toutes les messes depuis Louis XIII et jusqu'à Charles X, puisque nous sommes sous Charles X, lui gare au fait que cette messe a été interprétée pour la dernière fois en 1827 et composée en 1825. Alors, pour conclure cette soirée qui aura été variée, mais en fait, on a toujours un peu tourné autour des mêmes thèmes, ben, on va encore un peu tourner autour des thèmes qui sont les nôtres dans cette chronique, puisque nous allons parler d'héraldique et de chevalerie, à propos du salon du livre d'héraldique et de chevalerie qui va se tenir dans les locaux du musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du nom de ce musée, les 22, 23 et 24 octobre prochains. Alors, c'est la première fois que vous organisez un salon de cette nature?
Oui, c'est la première fois que le musée ouvre ses portes à une manifestation telle que celle-ci. Ça se passe aussi dans un cadre très particulier, c'est dans le cadre du Temps des livres, qui est l'ancienne fureur des livres, qui se tenait pendant une journée les années précédentes, auxquelles nous ne participons pas. Et cette année se tient pendant 15 jours. Donc, nous avons décidé pendant 3 jours de faire quelque chose d'exceptionnel autour d'un thème sur lequel nous travaillons au musée, car il ne faut pas oublier que le musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie a un des seuls centres de documentation internationale au monde sur les ordres de chevalerie français et étrangers. Alors, d'ailleurs, ce centre de documentation, comme cette manifestation, est entièrement organisé donc par la Société des Amis du Musée de la Légion d'honneur et des Ordres de Chevalerie, donc qui permet de faire un certain nombre d'événements.
Vous veniez de terminer, je crois qu'elle est terminée, l'exposition que nous avions reçue, Madame Bissinger,
autour de la restauration d'un grand manteau de l'ordre du Saint-Esprit. Alors, vous aviez parlé de cette restauration, et je vous annonce qu'à partir du 15 octobre, la nouvelle salle de l'ordre du Saint-Esprit qui vient d'être complètement refaite, et c'est la première phase d'une restauration du musée, et ce manteau va prendre sa place dans cette nouvelle salle.
D'accord.
Ce qui fait que les gens qui viendront à ce salon auront aussi la primeur de redécouvrir ce manteau. Ce manteau de l'ordre du Saint-Esprit qui est exceptionnel, va être exposé, mais sur toute sa superficie, alors qu'habituellement, et on les connaît depuis des années, exposé mannequiné.
Oui, voilà.
Alors de plus, cette salle a été refaite complètement et on va voir les objets avec une nouvelle vision et notamment des moyens très modernes de muséographie.
Je ne veux pas vous enlever des visiteurs, mais on en voit aussi un très beau dans l'exposition Henri IV qui se tient encore actuellement, je crois, au Musée des Beaux-Arts de Chartres, puisqu'on a commémoré cette année le
4e. Il faut savoir qu'il existe recensé quand même à travers le monde que très peu de manteaux de l'ordre des Saint-Esprit.
Ils sont superbes, la passementerie est remarquable. Et là, il y avait en même temps qu'on visitait cette exposition sur l'ordre du Saint-Esprit.
Vous pouvez voir les restauratrices faire ce travail très particulier.
Je crois que c'était quelque chose de tout à fait surprenant et une attraction supplémentaire à la découverte.
En plus de ça, on pouvait voir aussi les petits manteaux qui ont été faits en 1777 lorsque Louis XVI a modifié pour la première fois le manteau du Saint-Esprit pour remettre à la place de ce manteau qui est quand même extrêmement lourd, ces petits manteaux. Alors ces petits habits d'ailleurs vont être exposés autour du grand manteau de l'ordre.
Parfait. Donc vous aurez encore une raison de plus de vous rendre au salon du livre de l'héraldique, mais il faut dire quand même
autour de ce salon du livre, il y a différentes choses. Il va y avoir d'ailleurs aussi une exposition d'objets d'héraldique et de chevalerie, mais alors traités par les grands couturiers, puisque nous avons des grands couturiers qui nous font le plaisir de nous mettre en scène des vitrines.
Alors par exemple,
par exemple, la maison Christian Dior, puisque cette année, Patrick Lavoie, son thème, c'était autour de la Renaissance, et le thème de la boutique chez Christian Dior, c'était réminiscence médiévale. Donc ils ont choisi ce thème pour nous faire une mise en scène, et puis Jean-Charles de Castelbajac, qui avait un certain nombre de pièces de collection dans la dernière année qui vient de s'écouler, et notamment la dernière collection, sur le thème de la chevalerie et de l'héraldique.
Ça revient chevalerie et Moyen-Âge, n'est-ce pas, depuis les visiteurs.
Deux visions complètement différentes, l'une très un peu classique, l'autre très très moderne, mais tous les deux vont mettre en scène. Et d'autres choses vont être aussi mises dans cette salle qui va montrer la maison, par exemple l'armorial, va nous mettre un certain nombre de sous-mains avec des armoiries, des objets que l'on trouve aussi bien anciens ou que l'on trouve à l'heure actuelle.
Alors, il faut peut-être préciser un peu qu'est-ce que c'est que l'héraldique, parce que je suppose que tous nos auditeurs en savent plus que moi sur cette question, mais pour ceux qui viendraient de naître, par exemple.
L'héraldique, par définition, il y a la science des armoiries et des blasons. Tout le monde connaît un peu les chevaliers armoirés, ou alors les livres. C'est la manière la plus courante où l'on rencontre des armoiries. Et puis la science de l'héraldique, c'est l'étude, justement, savoir lire des armoiries. Alors, c'est vrai que, il y a des grands spécialistes, et nous aurons d'ailleurs une journée de conférences sur l'héraldique et les armoriaux, et notamment...
C'est quel jour, les conférences?
Conférences, c'est le 22 et le 23 octobre.
Parce que ça va durer 3 jours, le salon. Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 octobre.
Voilà. Alors, le samedi 22, nous aurons uniquement des conférences sur les ordres de chevalerie. On aura une par Hervé Pinotto de l'Académie international d'héraldique sur l'écolier d'ordre français et l'héraldique.
J'espère qu'il est à l'antenne, nous le saluons tous.
Une sur les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes par le baron Raymond de Launaguet, qui est conseiller historique de la représentation officielle de l'ordre de Malte en France. Et le lendemain, nous aurons une conférence sur l'héraldique et l'armoriaux par Michel Porpor, qui est conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, et une autre par l'héraldique, une science méconnue, par Michel Pastoureau, qui est bien connu, qui est auteur de nombreux ouvrages et qui était directeur d'études à l'École pratique des hautes
études. Alors, qui devait d'ailleurs être là ce soir pour cette émission, mais malheureusement, le dernier ouvrage n'est pas encore sorti chez l'imprimeur. D'un cahier de l'excellente maison, le Léopard d'Or, qui va être consacré aux couleurs la symbolique des couleurs au Moyen Âge, un très très beau volume, un volume vraiment tout à fait intéressant. Mais le livre n'étant pas paru, on a préféré inviter un peu plus tard Michel Pastoureau, qui viendra sûrement nous voir dans 15 jours.
Voilà. Alors il est bien entendu que ces personnes, eh bien, dédicaceront leur livre aussi ce jour-là. Un autre personnage sera là, ce sera Monsieur André Damien, le maire de Versailles, qui va dédicacer son ouvrage, le grand livre des ordres de chevalerie et de décoration, et qui a d'ailleurs annoncera la sortie d'un nouvel ouvrage qu'il est en train de terminer. En plus, nous allons avoir faire entrer le monde de l'informatique, car les armoires, et oui, les logiciels, on commence à travailler dessus. Et c'est un héraldiste connu, qui est Philippe Falasi, qui fera une démonstration du logiciel.
Ah oui, très bien, je le connais aussi, j'espère qu'il est tôt.
Voilà, et logiciel PAL, qui a plus de 40 000 armoires. Répertorié. Excellent. Et qui peut être interrogé d'ailleurs, je pense, en plusieurs langues. Donc, ce sera une démonstration pour la première fois au grand public.
Donc, les gens pourront être un peu initiés à l'héraldique grâce à l'informatique.
À l'informatique, oui. Alors, il y aura un grand choix d'ouvrages et on a tenu à faire un espace spécial enfant sur tout ce qui est apparu sur la chevalerie et l'héraldique. Alors, bien entendu, il y a beaucoup plus de choses sur la chevalerie et le Moyen-Âge, mais un espace spécial enfant où ils pourront trouver tous les livres qui existent à l'heure actuelle en France sur ce sujet.
De toute façon, c'est dans le programme d'histoire.
Je dois vous dire que j'ai fait une découverte, qu'il y a une production énorme dernièrement et des très, très beaux livres. Et c'est vrai que là, pour cette manifestation, on est beaucoup aidé par les éditeurs et puis des maisons comme la librairie Safrois, dont il n'est plus à parler, tout le monde connaît les éditions Picard ou du Léopard d'Or, et puis il y a la Gallimard qui a fait énormément de choses pour les enfants sur ce sujet-là, notamment avec la fameuse collection Découverte.
On en trouve beaucoup, notamment au musée de Cluny, qui est aussi le musée du Moyen-Âge. Il y a une petite bibliothèque à l'entrée et notamment beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour les enfants.
Ah oui,
sur les châteaux
une très,
forts,
très belle production.
L'initiation à l'héraldique, la chevalerie, etc. C'est très, très bien.
Et
c'est
puis
bien
les romans du Moyen-Âge, comme La Chanson de Roland ou Perceval le Gallois, qui ont été réadaptés avec des illustrations pour les enfants. Et puis, bien entendu, un choix pour les adultes assez conséquent dans le domaine des livres aussi bien anciens, car nous aurons des très très beaux livres anciens qui seront aussi en présentation mais en vente, et puis des livres récents. Parfait. Donc quotidien, alors ça, il y a les ordres de chevalerie, l'héraldique, la sigillographie aussi, et puis il y aura, on a fait une place au roman du Moyen-Âge, et on a même été jusqu'au roman un peu policier, ceux d'Elise Peters, qui, on a fait un petit clin d'œil, si vous voulez, à la chevalerie, un peu romancé, enfin le Moyen-Âge un petit peu romancé, mais c'est vraiment le clin d'œil qu'on a voulu donner, voilà.
Alors moi, je ne peux qu'inviter les auditeurs de Radio Courtoisie à aller traîner leur guêtre au salon du livre d'héraldique et de chevalerie, et traîner leur polanguette, comme on dit, ou leurs éperons.
Leurs
éperons au salon du livre d'héraldique et de
chevalerie. En plus de ça, à l'extérieur, il y a une chose à dire, c'est que la scénographie du Puy du Fou, très gentiment, et je tiens à les remercier particulièrement, nous font venir et nous prêtent un certain nombre de bannières et d'éperons.
Très bien.
Merci Emmanuel de Villiers.
Voilà.
Merci à nos amis du grand parcours du Puy du Fou.
Et qui seront mis à l'extérieur, donc, du palais de...
La cinécénie du Puy du Fou, Dieu sait si on en a souvent parlé dans cette émission et à ce micro, parce que nous y avons beaucoup d'amis et nous apprécions beaucoup le travail qui est fait. Donc, moi, je ne peux qu'inviter, bien sûr, tous nos auditeurs à se rendre au salon du livre d'héraldique et de chevalerie, qui va se tenir, donc, le samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 octobre. Alors, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ?
De 11h à 17h, simplement que les dernières personnes, 17h, c'est l'heure à laquelle les personnes entreront.
Les dernières.
Voilà, parce que les conférences sont à 15h et 16h30.
D'accord. Alors, vous pouvez, pour toute information, téléphoner au musée national de la Légion d'honneur à partir de demain, aux heures de bureau. Je vous donne le téléphone. C'est le 45 55 95 16. 45 55 95 16, musée de la Légion d'honneur. Là, vous pouvez demander tous les horaires, etc.
L'adresse, bien sûr, du Musée national de la Légion d'honneur, c'est 2 rue de Bellechasse, Paris 7e, 2 rue de Bellechasse,
c'est pratiquement
Paris
7e. Sur les berges de la Seine.
C'est quasiment, voilà, oui, c'est, le, c'est l'hôtel de... Comment ça
s'appelle, l'hôtel de Salme.
Salme, qui est là. Donc magnifique. C'est Métro Solferino, peut-être.
Métro Solferino, RER,
Musée d'Orsay.
Chambre des députés ou Solferino et RER,
Musée d'Orsay. Musée d'Orsay, ouais, juste... très, très facile. Très, ce petit château est magnifique, enfin, ce petit palais est absolument adorable. Et dedans, il y a des trésors que vous allez pouvoir découvrir, puisqu'on vient de vous annoncer qu'une nouvelle salle allait être inaugurée le 15 octobre, qu'il faut pas, il faut pas manquer ça. Donc, je remercie évidemment Claude Jassir de nous avoir donné tous ces renseignements sur ce salon, du premier salon du livre d'Héraldique Etcheverry, donc exposition de livres, beaucoup de vitrines, héraldique et informatique, conférences thématiques, enfin, il y en a rien à voir. Quoi passer un week-end tout à fait extraordinaire, à condition, bien sûr, le dimanche 23, d'aller à la messe au Val-de-Grâce, voilà, à 10h30. Ça, c'est très, très important.
Après la messe.
Alors, à propos de messe, parce qu'il faut bien conclure sur des messes, avant de vous laisser une petite minute la parole, quand même, vous avez une petite minute, parce qu'on me dit, nous avons annoncé la messe, donc le rassemblement, plutôt, du dimanche 16 octobre, place de la Concorde pour Marie-Antoinette, mais il va y avoir des tas de messes pour Marie-Antoinette. Là, on m'annonce bien sûr une messe à Saint-Nicolas du Chardonnay le 18 octobre à 18h30. Il faut se souvenir qu'il y aura donc, comment dire, une messe un peu plus officielle organisée par la Mémorale de France à Saint-Denis, n'est-ce pas, par la Mémorale de France du Val-de-Grâce. Donc, ce sera le lundi 17 octobre 1994 à midi à la basilique de Saint-Denis. Et puis d'autres messes, sans doute, qui seront annoncées dans vos journaux et vos gazettes respectives. Avant que nous nous quittions, il nous reste encore 4 ou 5 minutes. Alors vous avez des petites brèves, 3 minutes, nous crie notre aimable technicien.
Bon, alors je vais encore parler très vite et après on va me faire le reproche de ne pas articuler. Je vais seulement vous donner une annonce sur la musique à Chambord. Vous savez qu'il y a des concerts au château de Chambord tous les samedis à 20h30.
Ben, j'ignorais.
Mais voilà, alors c'est un petit peu, c'est pas à Paris, mais enfin c'est vrai qu'on donne toujours des manifestations plutôt dans la capitale.
Ah non, on dit souvent des choses qui se passent en dehors.
Oui, mais enfin bon, ça change un petit peu. Donc vous avez plusieurs concerts qui ont été annoncés. Le samedi 8 octobre, donc samedi prochain, il y aura un concert sur les chansons profanes et psaumes huguenots par l'ensemble Jacques Moderne. Le samedi 22, des polyphonies flamandes et madrigaux italiens par l'ensemble William Byrd. Et samedi 29, les concerts des voix et des instruments par l'ensemble Labyrinthe. Je vais vous donner surtout un numéro de téléphone si vous voulez des renseignements, parce que mon avis, vous n'avez pas dû comprendre. Donc pour les renseignements et réservations, c'est au 54. Alors il faut faire le 16, faire le 16 parce que c'est en province. 54 50 50 02. Voilà, puis je voulais seulement dire, pour la petite anecdote, que Chambord vient du celte Camborito, qui veut dire le guet sur la courbe. C'est joli.
Vous saviez ça, Daniel ?
Bah oui, enfin, c'est surtout un château qui a été donné en souscription nationale au duc de Bordeaux, qui a pris comme
comte de
titre,
Chambord.
Le comte de Chambord.
Titre, l'étranger de comte de Chambord.
Et c'est là où il lança son manifeste.
Le 5 juillet
1871, son manifeste, il a... sur le drapeau blanc.
Alors, mais... Pierre-Emmanuel, donc voilà, on entend votre voix exceptionnellement ce soir. Vous étiez là pendant toute l'émission d'ailleurs, mais vous étiez au fourneau, comme
j'étais,
on dit chez nous,
c'est-à-dire
au téléphone pour répondre aux auditeurs.
On vous parlait de livres anciens, alors je voudrais inviter les auditeurs à se replonger dans deux livres qu'ils trouveront peut-être dans leur bibliothèque. Leur bibliothèque sont des vieux livres, hein. Un de 1920 et l'autre de 1940, je crois. C'est La politique de nos rois et Pensée choisie des rois de France. Donc c'est nos rois qui ont écrit ça.
Réédité.
Je ne sais pas s'il y a une réédition, mais en tout cas, ils sont très intéressants.
Ça se trouve chez les bouquinistes. Vous l'avez trouvé chez des bouquinistes, tout ça.
Sur les bords de Seine, etc.
Et vous avez le temps d'aller comme ça flâner sur les bords de Seine.
De temps en temps.
Pour
préparer l'émission.
C'est beau la jeunesse.
Voilà, je voulais rappeler aussi jusqu'au 11 décembre l'Arche et les Clarisses de France. On a reçu
une très belle exposition de notre année.
Voilà. À l'occasion du 8e centenaire de Sainte-Claire, c'est 21 à la mairie du 5e arrondissement, 21 Panthéon. Place du Panthéon. C'est de 11h à 17h45.
Très, très belle exposition.
Et l'entrée, c'est 20 francs.
Les pièces qui sont réunies là sont exceptionnelles. C'est vraiment très, très bon. On verra peut-être pas ça avant longtemps.
J'avais une bonne nouvelle aussi. Vous savez que le sang de Saint-Janvier,
oui, oui,
c'est à Naples, il s'est liquéfié encore, 19 septembre, et la
non-liquéfaction... Il ricane
ça
en plus,
le sang du saint se liquéfie.
Mais non, c'est très bien, parce que la non-liquéfaction est signe annonciateur de catastrophe. Et donc cette année encore, et ça a beaucoup rassuré le maire de Naples, qui est très inquiet.
Alors, et qui était Saint-Janvier?
C'est un martyr chrétien au 4e siècle après Jésus-Christ, qui a été décapité.
C'est vrai que généralement les martyrs chrétiens, c'est le 4e siècle après Jésus-Christ. C'est rare qu'on en trouve avant. Avant. C'est rare, remarquez, ça peut, si on cherchait bien dans les fonds de tiroir, on doit en trouver un.
Mais précisé, sinon on aurait eu encore des appels. Ouais.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria du 5 octobre 1994, diffusé le dimanche 15 juin 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.